Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, et oui, l'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit sur RMC, l'After, la seule émission à la radio en direct 7 jours sur 7. Et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast, casting du soir. Bonsoir Walid Acharchour.
Salut Nico, salut Simonet, salut à tous.
Salut. Tu vois, t'as fait un spoil là. Moi, je voulais créer un effet de surprise.
Ah, excuse-moi.
Qui est en face de Walid ce soir?
My bad, voilà. My bad, comme dirait Stephen Brun.
Bonsoir Simonet Rovera.
Et si c'était Marco Simonet? Non, Simonet, il a pas dit.
Mais là, c'est... Oui, mais ça aurait été...
Ciao, bon assez, bonsoir, en tout cas. Et je suis un peu, dire, surpris.
Et pourquoi?
Parce que j'ai l'impression que Walid est toujours côté droit. Et là, il est côté gauche.
Ah oui, c'est pas faux.
Je me trouve, c'est comme un défenseur central
que tu achètes
un club pour jouer à gauche, quand il a toujours joué à droite.
Ouais, t'as raison.
Est-ce que tu es Arthur Théâtre?
Non.
Parce que là...
Comment on dit? Nouvelle recrue du Théâtre.
En italien, on l'appelait Théâtre, mais je sais pas. Ça dépend. En italien, on change toutes les prononciations des noms.
Théâtre, Tchitch. Faudrait demander aux Belges.
Écoute, on demandera aux Belges. Et pourquoi pas à notre invité dans l'after ce soir, à 20h30 justement. On a un de ses futurs coéquipiers, Baptiste Santamaria, qui sera avec nous dans l'after ce soir, un cadre du Stade Rennais.
Tout rebond quand même, Nico.
T'as vu ça?
À la transition.
C'est travaillé tout ça. Simonet, on t'a appelé. Comment je vais amener l'interview de Santamaria? Il m'a dit parlons de Seat. Et donc Santamaria sera avec nous à 20h30 pour parler de
chevaux aussi.
Je peux parler un peu ou pas, Simonet? C'est incroyable.
Il pose la question, tu incroyable. Et après il s'énerve.
C'est pas parce que je pose une question qu'il faut une réponse, tu sais. Mais complètement fou le gars. Alors messieurs, Santamaria donc sera notre invité. Hein, l'ambition de Rennes cette saison dans le jeu, en termes de résultats également, son ressenti dans l'équipe, l'arrivée de Mandanda. On va évoquer pas mal de dossiers rennais avec lui. On parlera également dans un instant du trophée des champions, hein, PSG Nantes. C'est dans 2 jours, les dernières infos. On sera en direct de Tel Aviv avec notre envoyé spécial. La Ligue 2 aussi, le foot revient, messieurs, dames.
Enfin.
Ça fait plaisir. La Ligue 2 débute demain soir. Samedi, 15h, pardon. L'AS Saint-Etienne qui affrontera Dijon. Les Verts sont-ils armés pour remonter en Ligue 1 directement? On vous attend, supporter Stéphanois au 32-16.
On a un bon petit week-end de foot, hein.
On va se régaler.
La Ligue 2, le Community Shield, Liverpool.
City, Liverpool, t'as Bayern Leipzig.
Le Trophée des Champions.
T'as Bordeaux-Valenciennes aussi.
Dijon-Saint-Etienne contre Liverpool City.
Non, mais
il
faut de tout, Simonet.
C'est la compète qui reprend, Simonet.
Exactement. Moi, j'aime des choses simples, saines, vraies. Là, c'est Community Shield, des milliards.
Mais je suis tellement d'accord avec toi.
Oh, voilà.
D'ailleurs, on va parler du Trophée des Champions. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vous excite ou pas? On va en parler. Bon. Et puis, à 21h, à partir de 21h, les prédictions de la saison 2022-2023 de la Ligue 1, de l'after. Quel podium? Qui dans la charrette?
Oula.
En 4.
Oula.
La grosse cote, quelle équipe? Quelle équipe frisson?
Ouf.
Quelle équipe congélo?
Ah, on fait l'équipe congélo?
L'équipe congélo, évidemment.
L'équipe des hors nature.
Ah ouais, 0%, comme dit Walid. Pas de saveur, pas de sucre, pas rien. Tu rajoutes du sel, il n'y a toujours rien.
C'est pas mal.
Pas mal ça.
Mais on va pas faire des paris sur ça. Parce que j'attends encore un dîner de Daniel Riolo depuis un an. Et j'ai compris que ça sert à rien.
Il n'est toujours pas invité.
Allez les gars, et puis prédiction.
Il n'a pas le droit.
Quel meilleur buteur? La révélation de la saison en Ligue 1 selon vous? Qui sera-t-elle? Et puis voilà, vous pouvez nous appeler et participer avec nous. On aura le temps au 32-16. Et voilà, je veux parler du FC Barcelone qui doit passer devant le Real cette saison en Ligue 1. Vous nous appelez au 32-16. Le hashtag RMC Live sur Twitter, l'application RMC Sport à télécharger, Direct Studio, pour envoyer vos commentaires. C'est parti pour 2 heures d'after. Donc dimanche soir 20h, les gars, le premier match officiel de la saison PSG Nantes, trophée des champions à Tel Aviv, où se trouve l'homme qui suit le PSG, Arthur Perrault. Bonsoir.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Salut Arthur.
Alors Arthur, les dernières infos s'il te plaît, le PSG est arrivé aujourd'hui, ça y est ou pas? Oui.
Ils vont pas tarder à atterrir. Les joueurs parisiens, ils sont partis de Paris en fin d'après-midi avec un groupe de 22 joueurs sélectionnés par Christophe Galtier à l'issue de la séance d'entraînement ce matin du côté du camp des loges. Parmi les joueurs retenus, Messi, Neymar ou encore Nordine ou Moukielé, qu'on peut citer, la dernière recrue parisienne. Et à l'inverse, un absent, Hugo Ekitike, qui reste lui à Paris pour poursuivre sa préparation. On nous indique que voilà, il n'est pas encore à 100% et qu'il va rester du côté du camp des loges pour vraiment démarrer à 100% pour la reprise du championnat le 7 août prochain.
Mbappé est suspendu. Est-ce qu'il est pourtant du déplacement ou pas? Si tu as l'info, je ne sais pas. Dis-moi.
Alors, on n'a pas encore de confirmation. On entend un peu tout à ce sujet-là. C'est vrai que dans un premier temps, on nous avait indiqué que Kylian Mbappé ferait le déplacement malgré sa suspension. On entend un peu de tout ce soir, pour tout vous dire, messieurs. Donc voilà, on va rester prudent. Pour l'instant, rien de sûr concernant la venue ou non de Kylian Mbappé. Voilà.
Quel intérêt l'aurait Mbappé, sincèrement, les gars?
Pas de... d'être avec le groupe.
Oui, bah, mais c'est pas une finale de ouais, coupe, si tu veux.
Oui, mais,
pas,
tu vois, ça va. Oui, mais dans ce qu'on nous vend là depuis le début voyage, de la préparation, quand même, avoir le meilleur joueur de l'équipe qui se déplace, même s'il est suspendu, ça peut être aussi une bonne chose.
Hein. Arthur, tu voulais rajouter quoi?
Oui, ça ferait écho aussi aux déclarations de Christophe Galtier du côté du Japon, où il avait indiqué en conférence de presse après le match face à l'Urawa, qui disait que Kylian Mbappé avait beaucoup d'ambition pour lui-même, mais aussi pour le groupe, et vraiment pour le groupe. Il avait insisté sur ça, sur le fait que voilà, Kylian Mbappé misait beaucoup sur ce collectif cette saison du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça pourrait aussi aller dans ce sens-là.
Et en plus, c'est logique. Les directeurs sportifs voyagent toujours avec les clubs. Donc Mbappé doit être présent en voyage.
Dis-moi, il est bon ce soir. Il commence bien, Simone.
Il est en grande forme.
Ah, les 8 premières minutes, c'est de grande qualité.
Dis-moi également, bon, demain, il n'y a pas de doute, hein, Galtier va mettre la grosse équipe. Enfin, dimanche, pardon.
On espère.
Alors oui, c'est ce qu'on espère en tout cas. La logique dirait qu'il reconduirait le 3-4-1-2 qu'il travaille depuis son arrivée au Paris Saint-Germain et lors des dernières séances d'entraînement du côté du camp des loges. La logique dirait aussi qu'on aurait le droit à la même équipe que face au Gamba Osaka, le dernier match de préparation du côté du Japon. Je vous la redonne quand même, cette compo d'équipe. Donnarumma dans les buts, la défense à 3, Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Ensuite, au milieu, Hakimi, la paire Verratti-Vitinha, qui était très très bon d'ailleurs, Vitinha, lors du dernier match du PSG au Japon. Mendes, juste devant eux, Messi, et donc la paire Neymar-Sarabia. Sarabia qui a été préféré lors du dernier match à Arnaud Calimuendo, qui avait eu pas mal de temps de jeu, qui avait été récompensé d'ailleurs de ses deux buts par Christophe Galtier. Mais c'est maintenant Sarabia qui tient la corde.
J'aimerais bien voir Calimuendo d'entrée, moi, par rapport à ce qu'il a montré avec le PSG en prépa, par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il a montré aussi à Lens l'an dernier, même si on sait qu'il est peut-être en instance de départ par rapport à sa valeur marchande. Mais sur un match comme ça, je pense que je préfère le profil de Calimuendo dans l'axe qu'un Sarabia.
Moi, je veux Mauro Icardi, mais ça intéresse à personne.
Tu vas faire un dernier mot sérieux ce soir ou pas, Simonet?
Tu vas faire une émission troll, en fait.
Tu veux couvrir l'émission pendant 2 heures.
Moi, je suis pour les surprises.
C'est quoi l'idée, là?
Mauro Icardi, depuis le mois de janvier, ne devait pas être là. Il devait être vendu, bradé
aussi.
Partir gratuit. Il est là. Il fait partie du... Il ne devait pas partir au Japon, il est parti au Japon. Il fait partie du 22.
Des 22.
T'imagines quel meilleur.
Attention, il a été transparent.
Ouais, Arthur, il a été transparent au Japon.
Très transparent. Simonet. Ah ouais.
Très transparent.
Mais parce que c'est un problème d'horaire. Ouais. Lui, il arrive un peu plus tard.
Mais j'ai bien aimé le petit point de Nico à 20h10 sur Simonet, pour essayer vraiment de lui demander ce qu'il voulait faire de cette émission.
Je sais pas, émission parallèle peut-être. Il n'est pas avec nous. Je pense qu'il est avec des potes, avec des oreillettes.
J'aime bien. L'anticipation de l'animateur, j'aime bien.
Dis-moi, Arthur, avant de te libérer, aller dîner, raconte-moi un petit peu s'il y a un engouement attendu autour de ce match en Israël.
Alors, oui, parce que en prenant l'avion, pour tout vous raconter, avec Timothée Mémon, on a croisé plusieurs ressortissants qui du coup revenaient ici en Israël et qui nous ont parlé de ce match en nous disant il est plié d'avance, oui, on en parle beaucoup, mais tout le monde se dit que le Paris Saint-Germain va forcément s'imposer. Et c'est vrai que attention, parce que il y a donc ce fameux 3-4-1-2 qui a montré ses fragilités du côté du Japon, mais en face, faut quand même aussi parler des Nantais. Avec une équipe qui se connaît par cœur, il n'y a eu qu'un seul gros changement, c'est en attaque avec le départ de Randal Kolo Muani remplacé par Mustapha Mohamed. Cette équipe se connaît par cœur et c'est aussi très bien préparé. Donc voilà, les gens en parlent beaucoup, mais en se disant tout de suite, mais ce match est plié d'avance. Voilà.
Bon, rendez-vous donc dimanche soir à 20h. On sera là également demain soir pour faire un vrai avant-match, parler notamment du FC Nantes, de son intersaison et de ses ambitions la saison qui vient. Merci Arthur, excellente soirée à toi.
Merci Arthur.
Et à très vite sur RMC. Salut, bonne soirée à toi. Messieurs, je vais accueillir au 32-16 Tariq. Salut Tariq.
Bonsoir tout le monde.
Salut Tariq. Salut, salut, Tariq. Salut Tariq, habitué de l'after bien sûr Tariq. Ça t'excite un peu ce trophée des champions ou pas? Ou pour toi c'est anecdotique?
Non, non, très très excité. Très excité par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé cet été, tout ce qui s'est passé au niveau du nouveau projet, par rapport aux dernières arrivées, au mercato, par rapport à la nouvelle bonne volonté des joueurs, excités vraiment. Et je pense que ce match-là, malgré tout, même si ça reste un match de début de saison, le trophée des champions, je pense que ça va nous en dire un peu plus quand même sur ce qui va se passer sur ce début de saison et sur la saison.
Ah mais surtout, ce qui est intéressant, Tariq, c'est que ils doivent quand même un petit peu se racheter du trophée des champions de l'an dernier, où même si le contexte était très différent, il y avait très très peu de titulaires. On se rappelle, Dina et Bimbe avaient démarré, Draxler. Il y avait quand même une grosse revue d'effectifs subie par des joueurs qui n'étaient pas là sur la préparation. Mais il va falloir que voilà, le Paris Saint-Germain montre un autre visage que celui qu'ils avaient montré l'année dernière contre le Lille de Gourvennec, et surtout aller chercher ce trophée, parce que même si c'est pas un trophée extraordinaire, même si c'est pas le plus grand trophée pour le Paris Saint-Germain, c'est bien de commencer de cette manière, et surtout de composter un petit peu cette préparation où on a vu des choses très intéressantes, d'autres moins, où il va falloir nous rassurer, notamment défensivement avec cette défense à 3 face à une opposition un peu plus quali que le 16e du championnat japonais, même si on respecte le championnat japonais. Donc voilà, pour toutes ces raisons quand même.
On respecte.
Oui, enfin oui, on
oui, respecte. Oui, bien sûr, évidemment.
Donc voilà, donc
16e du championnat japonais, tu l'as dit.
Donc pour toutes ces raisons-là, je peux comprendre Tariq sur l'excitation de voir le PSG démarrer sa saison.
Il y a un besoin, vraiment, en rapport à l'année dernière, quand c'était la deuxième année de Pochettino, on savait déjà que c'était le début de la fin d'une histoire. On savait que Pochettino était... On savait pas quand serait terminée, on savait qu'elle allait terminer, donc il y avait moins d'exigences, je pense aussi, sur l'histoire des résultats, même s'il avait déjà perdu le championnat. Bon, en tout cas, pour Galtier, commencer avec une victoire, c'est tranquilliser pour deux mois, avoir deux mois de tranquillité. Imaginez commencer avec une défaite, en plus, face à Camboré.
Tu crois?
Ouais. Deux mois, ça veut dire tout le mois de août et le mois de septembre. Reste.
Tu penses que s'il perd, c'est problématique?
Non, les gars.
Ça commence, c'est des petites choses.
Moi, je pense que si, ça pourrait.
Tu perds face à un ancien entraîneur du PSG, tu perds face à une équipe qui a...
Tu perds deux fois de suite contre Comboiré sur un titre. Parce qu'après le Nantes-Nice, après le Nantes-Nice, le PSG-Nantes.
Tu vois, les complexes.
On n'en fera pas autant, mais en tout cas, c'est important de voir un Paris Saint-Germain qui est au-dessus de Nantes.
Mais l'intérêt, les gars, c'est
que ça fait tâche quand même. Ça ferait tâche.
Les foot d'été, ça vaut très peu. On sait jamais, on sait même que les grands matchs amicaux, il y a deux jours, je me suis tapé une Juve-Barça à 2h30 du matin. C'était mieux si j'ai resté dormir, mais bon, le but de Dembélé était magnifique. Mais on sait bien que même quand tu fais joue face au gros. C'est pas vraiment les vrais tests, c'est toujours des entraînements.
Mais l'intérêt, c'est de savoir plus sur les plans de Galtier, justement. La composition aura.
C'est tourné en jeu.
Donnera un vrai enseignement.
Mais pas des références.
Non, mais la composition, est-ce que Vitinha et Verratti peuvent jouer ensemble? Est-ce qu'ils vont jouer ensemble?
Ou est-ce qu'ils comptent pas jouer ensemble?
Est-ce qu'il va continuer avec Ramos, stopper droit? C'est une grosse question. Le contenu, l'amélioration du trident offensif, même si Mbappé sera pas là. Est-ce que Messi va confirmer ce qu'il a fait sur les derniers matchs? La même chose pour Neymar. Il y a quand même pas des enseignements à tirer, parce qu'on sera pas dans le catastrophe. Si le PSG gagne juste 1-0 ou 2-1 contre Nantes, mais quand même, on en saura un peu plus.
Je vais remercier Tariq. Merci Tariq.
Merci Tariq.
16. Très bonne soirée à toi. Mohand est avec nous également. Alors, supporter du Real Madrid, Mohand, il est en colère. Salut Mohand.
Oh. Salut Nico. Salut Walid.
Salut Mohand.
Alors sur l'écran, il est indiqué je suis hors de moi. Ah, pourquoi?
Je suis hors de moi parce que j'ai écouté l'interview, lu l'interview de Hugo et Kitiquet sur l'équipe, qui disait que le PSG est le plus grand club français et aussi du monde. Le monde, il me pose un problème énorme. Parce que, en fait, ça pose un problème plus profond que ça. C'est une question de génération. J'ai l'impression que les jeunes qui naissent, ils n'ont aucune culture footballistique. C'est un joueur qui est peut-être pris pour modèle. et qui, en disant des propos aussi, aussi forts, aussi catastrophiques, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir et pour rétablir un peu les choses.
Je pense, Mohand, j'entends.
Que le PSG est le plus grand club au monde.
Je pense que c'est naïvement...
oui, je pense
démagogique.
Que c'est, bien sûr.
Bah, c'est de la com. C'est, de la... Ah, mais... c'est un petit peu de com. Comme... Mais tu sais, depuis un mois, chaque joueur qui atterrit au Barça, au Real, au Bayern aussi, on l'a vu avec Battistel, c'est j'arrive dans le plus grand club du monde.
Voilà,
voilà c'est des formulations.
Mais je suis quand même étonné.
Mohand,
avec tout le respect que j'ai pour toi, je suis quand même étonné que ça te touche en tant que supporter du Real Madrid, quand même.
C'est pas que ça me touche, c'est que, en fait, c'est plus profond que ça. C'est des mots forts, en fait. Le Real, c'est 14 Ligue des Champions, c'est 35
Ligue 1. Oui, milliards, mais Mohand, c'est un gamin qui est tiqué, il arrive à Paris, il vit un rêve.
Bien sûr.
Voilà, c'est au détour d'une question, et effectivement, il répond ça. Je pense qu'il n'y a pas de.
Il y a comme et comme, je trouve.
Mais c'est les premiers amours. Tu te souviens, ton premier amour, quand t'avais 15 ans, 16 ans, tu pensais que c'est les plus grands amours de ta vie, et après, c'est fini. Mais à l'époque, tu vis la chose les yeux fermés, les cœurs qui battent fort, et ça c'était équité à la première entrevue en tant que joueur de PSG.
On peut
non,
le
mais
voir
c'est un discours
ça,
conventionnel et convenu de la part de tous les joueurs dans
oui,
tous les grands
voilà,
clubs.
C'est ça. Bon, merci Mohand d'être venu
merci
dans l'after.
Merci Mohand. Juste un mot si je peux.
Vas-y.
Je voulais juste féliciter Walid pour son parcours. J'ai écouté son interview avec SNA, ça va lui parler. Je voulais juste le féliciter par rapport à tout ce qu'il a vécu, à son parcours.
Merci beaucoup, Mohand.
C'est un exemple pour beaucoup de jeunes.
Merci beaucoup.
Très bien, Mohand. Le message est passé. Il touche Walid, bien sûr, qui était, je crois, en légère transpiration dans cette interview. bonne soirée à toi, Mohand. À très vite
pour finir, sur l'interview d'Equitité.
Comment tu dis
Equitité?
Non, toujours pas. Vas-y, recommence.
Il y a une difficulté là, attends.
C'est magnifique. Il faut que tu sois sur tes appuis là, Simonet.
Hein. Écoute-moi, Eki.
Equitité.
Equitité.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Equitité.
Mais c'est non, t'as mal entendu.
Petit caca. N'importe quoi. Il nous fait un début d'after, Simonet.
C'est légendaire.
Légendaire. Bon, allez, on revient dans un instant. Tu voulais dire quoi quand même, vite fait? Sur Hugo.
Quand on lui demande, sur Hugo, quand on lui demande les filles, il y a Neymar, Mbappé et Messi, tu ne penses pas d'avoir beaucoup de temps de jeu, mais non, à côté de l'E3, je ne peux que apprendre. Un joueur comme lui peut apprendre, même de Nuno Mendes, qui a fait un an de plus que lui au plus haut niveau, il peut apprendre même de Calimundo, il peut apprendre de tout le monde, mais il répète des phrases, des formules voilà, qui existent. Et sûrement, on lui était donné.
Tu crois? Je pense pas. Là, comme le dit, c'est bien. Si tu dis que le PSG est le plus grand club du monde,
ça lui rentre dans la tête par naïf. Quelqu'un qui lui dit de dire ça.
Mais surtout, on s'en fout.
Ouais.
On s'en fout, exactement. Voilà pour le PSG. Alors, début d'affaire baroque. Mais j'ai aimé quand même. Ouais, on a ri. Dans un instant, on sera un peu plus sérieux. On va parler de l'AS Saint-Etienne, les gars, qui pour la première fois depuis 18 ans va démarrer une saison en Ligue 2. Est-ce que l'AS Saint-Etienne est armé pour remonter directement? À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
L'after 20h21. On est ensemble jusqu'à 22h avec Walid Acharchour et Simonet Rovera. Messieurs, samedi, demain, la Ligue 2 reprend. 15h, Dijon et Saint-Etienne. C'est une grosse Ligue 2 cette saison. On va avoir deux clubs historiques qui vont tenter de remonter directement. Il n'y a que deux places, deux accessibles pour la Ligue 1. Je pense à Bordeaux et l'AS Saint-Etienne. Il y a aussi Metz. Il y a aussi Caen qui a des ambitions.
Et il y a aussi cette Ligue 2.
Dijon, Le Havre, Nîmes par exemple, Sochaux, Grenoble, Sochaux bien sûr.
Ah, tu n'oublies une.
Dis-moi.
La meilleure équipe Guingamp. Dans les jeux de la deuxième partie des saisons.
En avant Guingamp.
Après, ils ont perdu leur meilleur joueur quand même.
Mais
ouais, c'est plutôt alléchante cette Ligue 2 avec Bordeaux qui s'est sauvé administrativement, ouais. Saint-Etienne qui descend, tu l'as dit, avec des équipes et des entraîneurs aussi qui ont des idées de jeu. L'année dernière déjà c'était plutôt intéressant à suivre, même si j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais cette saison il va avoir pas mal d'intérêt. Non mais parce que en fait je le dis souvent, je regardais beaucoup la Ligue 2 quand c'était le vendredi à 20h.
Ouais.
Et maintenant qu'ils l'ont mis le samedi à 19h en face des matchs européens, etc., c'est un peu plus compliqué.
Je suis d'accord.
Mais bon, le problème, c'est que les supporters ne venaient pas le vendredi à 20h. Exactement. À cause du travail.
Au final, la Ligue 2, ça doit être un produit pour les supporters,
ouais,
plus que pour la télé. Je pense que c'est, avec tout le respect pour les diffuseurs, etc., c'est important que ce soit un championnat où les stades soient pleins. En Italie, la Serie B a différents horaires, mais il y en a, toi, les dimanches après-midi, aussi les samedis après-midi à 16h, 14h, je pense. et c'est vraiment fait pour donner l'accès aux...
T'as des belles influences en série B?
Oui, t'as des belles influences et on parlera de la Ligue 2, mais cette année t'as des clubs comme Cagliari, Genoa, t'as encore Parme, donc ça va être un... Même cette année, Venezia qui est descendue, donc ouais, ça va être bien. Et c'est beau de voir des deuxièmes divisions qui ont autant d'intérêt populaire. Mmh.
L'AS Saint-Etienne est-elle armée pour remonter en Ligue 1 directement? Appelez-nous, supporters des Verts, au 32-16. Ah, ton avis tranché. Je vais te poser la question dans un instant, Simonet. D'abord, je propose d'écouter le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne, Laurent Batless.
C'est un championnat qui est très long, qui est très dur. Il faut avancer avec beaucoup d'humilité, avec un groupe très cohérent. Il y a des moments qui sont difficiles. Il y a aussi, malgré tout, des endroits assez hostiles, parce que c'est comme ça. Il y a beaucoup d'homogénéité, en fait. En gros, tout le monde peut battre tout le monde. C'est là où il faut être très serein et aussi le savoir qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause, en fait, presque toutes les semaines.
Voilà, Laurent Batless. Les gars, alors, toi, tu penses que oui?
Ouais,
pourquoi
pense.
14 joueurs partis, hein. On peut les citer très rapidement, hein, mon cher Simonet. Amouma, Nordin, Kazri, Kolozejak, Boudbouz, Traoko, Nianion, Benkedim, Dius, Sako. De retour de prêt, Bernard Denis, Tube.
Ouais, il y en aura quelqu'un que je pense que Saint-Etienne peut regretter, mais après.
Gournay est parti aussi.
Parce qu'aurait envie de jouer en Ligue 2, ces joueurs-là. Par contre, tu prends des joueurs comme Cafaro, comme Dylan Chambos qui pour moi, en acceptant de venir à Saint-Etienne en Ligue 2, ont une motivation de plus. Ça reste une équipe avec des joueurs de qualité. Tu vois, un joueur comme Yvan Masson n'est pas parti pour l'instant, il est resté. C'est quand même des joueurs qui avaient fait bien en Ligue 1. Je pense que c'est un endroit où il y aura un soutien populaire vrai, sain.
Populaire sera en octobre, hein, parce que je rappelle qu'ils vont jouer à huis clos à Geoffroy Guichard pendant 4 matchs.
Et ils commencent le championnat avec 3 points.
Avec moins 3 points aussi.
Mais c'est pas ça. Je veux pas faire une comparaison trop grande, mais c'est un peu comme quand la Juve descend en Serie B. Après, à l'époque, il y avait les Nedved, Del Piero.
Oui,
mais pour
c'est
dire.
C'est comparable quand même.
Mm. Non, mais c'est un monument français.
On aime beaucoup Cafaro. Abichard et Jean-Philippe Crasso, mais quand même.
Évidemment, mais je vais pas aller jusqu'à là, mais c'est comment dire, une erreur du calendrier de voir Saint-Etienne en Ligue 2, et je pense que les travaux a été fait pour amener des joueurs de catégorie, mais un peu plus, et je pense que Saint-Etienne aura toutes les cartes en main pour arriver dans les deux équipes qui montent.
J'accueille David, supporter des Verts au 32-16. Salut David.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe.
Salut David. Bonsoir à toi. Alors, est-ce que tu es confiant avant ce début de saison à Dijon?
Alors, je suis confiant pour aller faire le déplacement déjà. Mmh. Donc, bon, bah là, il faut être motivé et puis il faut être au taquet, il faut avoir de l'espoir. Et sinon, on a hâte de voir ce premier match. Et puis, nous, ce qu'on attend, c'est surtout des recrues sur le front de l'attaque, hein. Parce que là, on voit que Denis risque de partir
Buanga,
assez rapidement.
Partir à Los Angeles, ouais.
Jouer avec Gareth Bale.
Ouais, incroyable.
Ouais, voilà. Ouais, ça va changer. Et puis, le problème, c'est que, ouais, après, il n'y a plus rien. Même Crasso, il voudrait partir. Donc, c'est compliqué, quoi.
C'est vrai.
Crasso. Donc, là, on voit que devant, ouais, moi, c'est surtout ça que ça me fait peur. Au milieu, ça a l'air de s'être renforcé un petit peu. Derrière aussi. Bon, j'ai confiance en Green. Mais après, bon, l'attaque, il va falloir. On attaque demain et puis faut trouver un attaquant.
Non, mais il reste des joueurs intéressants qui ont connu la Ligue 1, qui ont même connu la Ligue 2 pour certains. Peut-être qu'un mec comme Harold Mukoudi en Ligue 2, ce sera un peu plus solide qu'en Ligue 1. Tu l'as dit, le retour d'Etienne Green, même s'il va falloir voir comment il va revenir de cette blessure. Peut-être que Aouchiche en Ligue 2.
Il va peut-être se révéler.
Voilà,
ouais.
Voilà. Peut-être que ça va être un peu mieux que ce qu'il a donné en Ligue 1 avec un coach comme Laurent Batless. Tu as encore Camara. Voilà, tu as des joueurs, mais c'est vrai qu'offensivement, quand tu sais que Denis Buanga va partir, que Kazri est parti, que Nordin est parti, que Romain Mouma est parti, ça fait quand même beaucoup. Et je trouve que le recrutement, il est un peu léger quand on voit que d'autres effectifs en Ligue 2 se sont quand même pas mal renforcés. Et surtout qu'ils connaissent un peu ce championnat.
Oui, et puis ils ont des équipes qui sont déjà rodées.
Exactement.
Hein,
Saint-Etienne va redécouvrir ce championnat. C'est un peu les mêmes débats qu'on a avec Bordeaux aussi. Et il va falloir se trouver une ossature Ligue 2 de joueurs qui connaissent
valeurs
ce championnat.
Ligue 2 aussi.
Exactement.
De combattants.
Sur les valeurs, je n'ai pas beaucoup de. Sur les joueurs, je pense qu'ils vont arriver. La saison est longue, c'est vrai que c'est mieux de faire beaucoup de points au début, mais j'ai vraiment les sentiments que que Saint-Étienne va trouver ses raisons, ses ressources.
Oui, pourquoi pas. J'ai oublié de parler de Briançon, qui a bien connu avec Nîmes la Ligue 2, qui peut lui aussi montrer des belles choses. Et puis surtout, faut croire
en leur. Un coach aussi, les gars, aussi. Un coach qui exactement, ouais. Un coach qui connaît la Ligue 2, qui a fait monter 3 de Ligue 2 à la Ligue 1, qui est venu en connaissance de cause, pour un projet sur plusieurs saisons. Mmh. Bon, ça va compter, hein,
il y aller,
David. Hein.
Ouais. Il y aller,
oui, c'est sûr. Hein. Mais comme dit Laurent, lui, il voit pas une remontée directe. Hein. C'est pour lui, il faudra bien une année, deux années en Ligue 2 avant de. Faut monter un groupe, quoi.
C'est vrai qu'on avance profil bas, hein, côté Saint-Étienne.
Ah, c'était la pire saison pour descendre. Hein.
C'était la pire saison pour descendre avec les deux montées cette année.
C'est clair. Ouais. Mais bon, ça faisait 3-4 ans qu'on flirtait avec la Ligue 2. Ça, voilà, c'est arrivé. Hein.
C'est arrivé, c'est l'histoire, la même histoire que celle des Girondins de Bordeaux. Ouais. Quasiment. David, merci. Bonne soirée à toi.
Eh ben, merci à
bonne
vous.
Bonne saison
et
avec les Saint-Étienne.
Ouais. Allez,
à bientôt. Bye bye. Allez, les gars, dans un instant, notre invité Baptiste Santamaria, milieu de terrain titulaire. Du Stade Rennais, il sera avec nous pour un petit moment. Appelez aussi si vous voulez poser des questions au numéro 6 du Stade Rennais. À tout de suite dans l'After avec Oueda Cherchour et Simone Rovera.
RMC. L'After Foot. Nicolas Jamain.
Pour finir sur l'interview d'Equité.
Comment tu dis
Equité?
Non, toujours pas. Vas-y, recommence.
Ah, il y a une difficulté là. Attends.
C'est magnifique.
Faut que tu sois sur tes appuis là, Simone. Hein.
Écoute-moi.
Equité. Et qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit équité.
Mais c'est non, t'as mal entendu.
Petit caca. Et oui, on garde les bandes, Simone Rovera. Hein,
ouais. Est-ce que lui sait dire Simone Rovera bien?
C'est plus facile, je pense.
Alors,
est-ce que tu sais dire le nom de notre invité? Évidemment. Baptiste Santamaria, milieu de terrain du Stade Rennais, est avec nous à l'After ce soir. Salut Baptiste.
Salut, bonjour.
Bienvenue
salut,
sur RMC, salut, c'est sympa d'être avec nous pour un petit moment avec Oueda Cherchour et Simone Rovera. Tu sais dire équité?
Tu l'as du mal.
Tu vois, Nico, à force de
tu sais dire équité, Baptiste, c'est bon.
Équité, ouais.
Ouais, plus ou moins. Plus ou moins aussi, Baptiste.
Eh, mais c'est Santamaria Rovera, c'est un peu les deux.
Santamaria Rovera. Équité, c'est facile.
On galère tous. Équité. Bravo, Baptiste.
Je l'ai répété tellement de fois avant l'émission qu'après, tu te trompes quand tu répètes tout le temps les mêmes mots.
Encore une fois, ce qu'on appelle la palindrome. Son nom, celui dans les deux sens. Tu vois, c'est fou. Baptiste, alors, comment tu te sens avant d'attaquer cette deuxième saison personnelle à Rennes?
Bah, plutôt très bien, très bien. On a hâte de reprendre le championnat.
La prépa s'est bien passée?
Oui, c'est très bien passé. Ouais.
Petite victoire contre Nantes mercredi. Et j'ai vu également que tu as été capitaine en deuxième période, Baptiste.
Ouais. J'étais capitaine en deuxième période. C'était une bonne chose.
Non, mais c'est la preuve que tu es en train de plus en plus de faire une place et de compter, hein, dans l'esprit du coach et de l'effectif.
Non, ouais, ça fait plaisir. C'est une petite distinction, un petit clin d'œil. Donc,
t'as été surpris?
Surpris, oui et non. Non, en fait, c'était plus une petite récompense, je pense. Donc, c'est cool.
Walid.
Salut Baptiste. Je voulais revenir un petit peu sur ton arrivée à Rennes. Moi, je t'avais suivi pas mal de fois à Fribourg, notamment dans les grosses rencontres, et j'avais senti que ton début de saison n'était pas, comment dire, tu n'étais pas à ton meilleur niveau. Et moi, je voulais, et au fur et à mesure de la saison, on a retrouvé un petit peu le Baptiste Santamaria d'Angers et de Fribourg, et on sent vraiment que là, tu t'es imposé comme un taulier de cette équipe. Est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti de cette manière quand tu es arrivé? Est-ce que tu as eu du mal un petit peu à t'acclimater en début de saison l'an dernier?
Bah, je t'avoue que je l'ai pas trop ressenti comme ça, dans le sens où déjà j'ai joué quasiment tous les matchs, notamment les matchs de Coupe d'Europe, et après c'est sûr que quand je suis arrivé tout s'est bien passé parce qu'on a gagné les deux matchs de qualif et le derby contre Nantes tout de suite, donc j'avoue que ça m'a bien mis dans le bain en étant performant, et après c'est peut-être aussi dû au fait que j'ai enchaîné beaucoup beaucoup de matchs avec les matchs de Coupe d'Europe, c'était ma première année aussi, donc non c'est je le vois plutôt comme une bonne chose. Après, c'est vrai que je suis monté en puissance au cours de la deuxième partie de saison.
Ouais, j'ai vu une vraie différence, moi, sur la deuxième partie, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Non, c'était bien.
T'étais venu, Baptiste, également, tu me dis si je me trompe, hein, pour travailler avec Bruno Genesio, hein, le coach. Qu'est-ce que tu as aimé la saison dernière dans son style, dans sa méthode?
Bah, c'est que c'est 100% du jeu. C'est très porté vers l'avant, c'est très offensif, mais en même temps, il y a beaucoup de permutations entre les joueurs, ça dézone en permanence et tout en gardant un certain équilibre. Donc, on prend énormément de plaisir au sein de cette équipe.
Simonet.
En parlant d'équilibre, c'est effectivement Saint-Étienne-Rennes, une équipe qui joue très offensive avec beaucoup de joueurs vers l'avant. Toi, tu es un peu le cœur de l'équilibre de cette équipe, au-delà du fait que tu dois courir pour tous. J'avais vu une statistique cette année, tu es le joueur qui a couru plus sur un match de Ligue 1, quelque chose comme 14 kilomètres, incroyable. Quelle est ta responsabilité, ta première responsabilité que te demande Genesio, de faire attention à ce que font l'autre ou de participer aussi au jeu?
Bien sûr, après ça dépend des actions. Des fois, ça nous arrive de permuter de me retrouver en zone offensive, mais après c'est vrai qu'en tant que point de basse, c'est à moi d'assurer l'équilibre, d'essayer de me positionner de la meilleure des façons pour pouvoir récupérer tout de suite la balle ou stopper une action s'il y a une contre-attaque. Donc c'est un rôle qui est important aussi dans le sens où il faut beaucoup anticiper.
C'est un rôle que tu apprécies vraiment, Baptiste. Tu vas pas dire le contraire, j'imagine, mais je rappelle que tu as été numéro 10 aussi avant. Hein.
Oui, non, c'est sûr, mais après, ce que j'aime bien, c'est qu'on parle... On parle là à l'instant de ma partie défensive, mais après ce que j'aime bien, c'est que d'avoir ce rôle d'un petit peu de piston et de transition, c'est-à-dire que j'aime bien basculer la balle de la défense à l'attaque pour pouvoir essayer d'animer un petit peu le jeu. Donc c'est ce qui me plaît aussi dans ce poste.
Surtout que sur la fin de saison, il a quand même été bien accompagné par Flaviente et Lovro-Majer, qui sont quand même des joueurs à des profils
des créatifs
très, très, voilà, très offensifs et très créatifs. Et moi, j'ai notamment sur le match contre Marseille, sur la première mi-temps, sur la fin de saison, j'avais trouvé le milieu de terrain très très équilibré, très convaincant, très complémentaire. Et je pense que Genesio va devoir repartir sur ça la saison prochaine pour donner de la continuité, parce que c'est une vraie valeur sûre dans cette équipe de Rennes.
Baptiste Santamaria est avec nous dans l'after sur RMC. Baptiste, il va falloir redémarrer sans un patron qui était aussi derrière toi, le patron de la défense de Rennes, hein, Naïef Aguerd, qui est parti à West Ham.
Ça, c'est la question.
Est-ce qu'il y a une inquiétude ou pas? Parce que bon, il y a deux recrues, on l'a dit tout à l'heure, hein, Arthur Théaté de Bologne, international belge, et sûrement dans les prochaines heures l'officialisation du Gallois, ancien Tottenham, Joe Rodon. Il va vous manquer, Aguerd?
Bien sûr qu'il va nous manquer, déjà sa personnalité, parce que c'est quelqu'un de super et c'est un super joueur, donc forcément il va nous manquer de ce côté-là. Après, je pense qu'on peut faire confiance aussi au staff pour avoir fait confiance à Arthur et au Gallois qui va arriver. Donc non, je suis pas très inquiet, parce que je pense qu'on va vite trouver nos repères et lui au sein du groupe. Donc non, je suis pas très inquiet.
Non, mais je voulais savoir, vu les deux recrues, est-ce que quand tu as vu que finalement le stade Rennais, tu rigoles déjà?
Je vois
tu sais bien. Déjà la question. Non, est-ce que quand tu as vu que finalement il y avait deux défenseurs qui arrivaient, tu te dis, ouf, finalement je ne dois pas aller jouer encore défenseur central?
Comme c'est l'année dernière, vu que contre Monaco ou Nantes, quoi.
Vu que tu as dû dépanner quand même l'année dernière.
Je sais pas pourquoi, mais je la sentais venir cette question.
Non, mais si tu avais les notifications sur ton téléphone pour voir les arrivées du mercato.
C'est bon, chéri, je ne vais pas jouer en défense centrale.
Non, mais comme je l'avais déjà dit au coach, moi, c'est quand il fallait dépanner, j'ai dépanné du mieux possible. Après, c'est vrai que c'est bien qu'on ait des défenseurs de formation à ce poste-là, surtout à ce niveau-là. Donc non, c'est une bonne chose pour nous.
T'as sentiment, Baptiste, que vous êtes mieux armé cette saison pour jouer à la fois la Ligue 1 avec ambition et la Ligue Europa aussi avec ambition?
Oui, parce que déjà, je pense qu'il y a un socle qui est assez solide et on a perdu très peu d'éléments, donc je pense que ça déjà c'est la base et c'est une très bonne chose. Et puis on a accompagné aussi des joueurs d'expérience qui viennent d'arriver, je pense notamment à Steph qui va nous faire énormément de bien. Donc de ce côté-là, on est bien.
Steph Mandanda, bien sûr. Vas-y, Walid.
Baptiste, par rapport à la très belle saison que vous avez eue l'an dernier, moi j'ai deux analyses qui s'entremêlent. J'ai le sentiment que Rennes a une grosse marge de progression encore collectivement, mais que individuellement cette équipe a quand même donné beaucoup. Je trouve que la saison de Martin Terrier elle est extraordinaire, celle de Flaviente quand il était là c'était très très bien. Aguerd va partir, mais il était très très bon l'an dernier.
Est-ce que celle de Baptiste Santamaria était très belle?
Exactement, l'abord de la première partie de saison très très bien, etc. Est-ce que tu as le sentiment que individuellement et collectivement vous pouvez encore donner beaucoup plus pour aller chercher cette Ligue des Champions, parce que ça va être ça le cap? Ou est-ce que, je pense que tu vas pas me répondre le contraire, mais tu sens que l'année dernière, vous étiez à bloc à un moment donné?
Non, je pense que déjà, d'un point de vue individuel, on peut toujours faire mieux. Et déjà, ça va être l'objectif cette année. Et d'un point de vue collectif, je pense que ça va être aussi l'objectif dans le sens où quand on va être le plus régulier possible, on va enchaîner les résultats et puis ça va nous permettre d'être encore mieux classés, je l'espère.
C'est quoi la marge de progression pour toi pour Rennes, si tu dois avoir
un axe d'amélioration l'efficacité également.
Exactement, une auto-analyse sur ce que vous avez fait l'année dernière et sur ce que tu te dis en disant voilà, l'année prochaine, il va falloir qu'on fasse ça pour aller plus haut.
Non, je pense que l'année dernière, en fait, les matchs qu'on a gagnés, on les a pas volés, on les a gagnés parce qu'on a joué super bien. Et forcément, dans une saison, il y a des matchs où on joue un petit peu forcément moins bien. Et je pense que l'axe de progression, il va être aussi là-dessus. Des fois, il faut être un petit peu moins beau et quand même prendre des résultats dans ces matchs-là. Donc, je pense que ça va être l'axe de progression.
Baptiste Santamaria, milieu de terrain du Stade Rennais, est avec nous dans l'after. On fait une pause, messieurs. On revient dans un instant avec le numéro 6 du Stade Rennais. Quelques questions encore à poser à Baptiste, ouais, bien sûr. T'en as deux, Simone. Note-les bien, histoire que tu ne les oublies pas. Restez avec nous, avec Wade Acharchour, Simone Rovera et Baptiste Santamaria. Vous écoutez RMC, il est 20h43.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Merci d'écouter RMC, merci d'écouter l'after, 20h45 avec Walid Acharchour et Simone Rovera. Et notre invité, Baptiste Santamaria, milieu de terrain du Stade Rennais, cadre de l'équipe de Bruno Genesio. Baptiste, on a des questions là sur notre application Direct Studio, notamment une de Chilpé, qui est supporter marseillais, qui me demande ce que tu penses de Steve Malanda, de ses premiers jours à vos côtés.
Bah déjà, super mec et puis un super gardien, parce qu'on a vu déjà notamment en entraînement. Il fait beaucoup d'arrêts, donc c'est une très bonne chose de l'avoir parmi nous.
Il est arrivé, comme l'est sa personnalité, en toute discrétion à Rennes, Baptiste ?
Oui, il est arrivé et puis après il a discuté un petit peu avec tout le monde et puis aujourd'hui il fait partie intégrante du groupe.
Il dégage déjà une assurance qui va vous apporter beaucoup, j'imagine. On en parlait plusieurs fois cette saison sur RMC, que peut-être la légère faiblesse du Stade Rennais, c'était le poste de gardien de but. Je rappelle que les deux se sont succédés l'un après l'autre. Alemdar, à chaque fois. Ouais. Alemdar était encore plein de talent, mais encore peut-être un petit peu juste. Là, c'est une vraie progression pour vous à Rennes, l'arrivée de Mandanda.
Oui, je pense qu'il va nous apporter toute son expérience, donc non, c'est une très très bonne chose pour nous.
Simonet.
Alors, non, moi j'avais deux questions, mais je commence par la plus... Ah, je sais pas si c'est la plus simple, la plus compliquée. Mais... non, mais cette année, l'année dernière, vous avez joué la Ligue Europa Conference, nouvelle compétition, victoire de la Roma. Je pense qu'il y a quand même... T'as vu aussi la finale d'Europa League, c'était entre Francfort et Rangers. C'est pas des équipes qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut dire, sont sûrement 100% supérieures au Stade Rennais. Est-ce que l'élimination face à Leicester, vous allez chez... beaucoup de regrets et vous avez envie cette année de vivre à fond cette compétition d'Europa League et si vous vous sentez bien pour aller loin.
Bien sûr, parce que déjà ça nous a laissé un petit goût amer parce que je pense qu'on mérite de passer face à Leicester parce que le match qu'on a fait au retour était vraiment, vraiment extraordinaire. Et puis, bien sûr que quand on entame une compétition, c'est pour aller le plus loin possible. Donc, on a des beaux arguments avec une très belle équipe. Donc, on va tout faire pour faire une très belle compétition.
Et après, on a parlé des objectifs de Rennes. On peut parler aussi de ses objectifs personnels. C'est un joueur qui fait, comme on dit, beaucoup de stats. Les récupérations, les passes, c'est toujours dans des bons stats. Et quel peut être ton objectif personnel, ton rêve, ton ambition je sais pas, il y a toujours l'équipe de France, j'imagine, dans ta tête.
Il y a la blessure de Pogba, là.
Peut-être, oui, il a raison, Pogba.
On va avoir besoin de milieu défensif. Hein.
Non, bien sûr, c'est un objectif aussi. Donc, ça va passer par des performances individuelles et collectives. Et bien sûr que si j'ai ma chance, ça sera à moi de la saisir. Et ça sera un immense honneur.
Baptiste Santamaria est avec nous sur RMC. Baptiste, j'ai préparé un petit questionnaire avec des questions, pas forcément salées, hein, mais des questions sympathiques. Écoute-moi, on commence par ça. Quel est le joueur de Ligue 1 qui t'a fait la plus grosse impression depuis ton retour de Fribourg?
Mbappé.
Bon, ouais, Mbappé, vitesse.
Logique,
évidemment. Le joueur le plus impressionnant athlétiquement, physiquement également, dans le duel aussi?
À York.
Ah oui. Presque logique aussi. Un très gros morceau, effectivement.
Un beau bébé.
Celui qui parle le plus sur le terrain. Tu peux dire Guendouzi, t'as droit, hein, ouais. Baptiste. Hein.
Celui qui est le plus chiant sur le terrain.
Le plus chiant.
Ouais, on peut dire Matteo.
Est-ce que Matteo parle plus que Marco?
Oui, je pense. Ah, Verratti, il parle aussi quand même, Baptiste, non Marco?
Ouais, mais c'est plus avec les arbitres, lui.
Oui, c'est plus tranquille pour les adversaires. C'est quoi le plus gros match de ta carrière? Si t'en as un que tu devais ressortir.
Pas mal, ça.
Entre Angers, Fribourg, Rennes.
Le plus gros match de ma carrière, j'irai avec... moi, je dirais qu'il y en a plusieurs. Hein, mais,
vas-y, vas-y.
Bah, déjà, la finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain avec Angers.
Ouais.
Bon match.
Ouais.
Le match de Leicester, l'année dernière, match retour.
C'est vrai.
Ouais.
Et puis, le match que j'ai fait avec Fribourg contre Dortmund à domicile qu'on gagne. Parce que c'était vraiment un bon match.
Avec un gros, gros début de match, là. Ouais.
Oui, tout à fait.
Quel est ton point à améliorer sur le terrain encore, Baptiste?
Moi, je dirais un peu de tout. Hein.
ta première qualité sur le terrain, tu vas me dire un peu de tout.
Un peu de tout aussi.
Quel est le joueur qui t'agace le plus sur le terrain, qui simule le plus?
Ah, t'es méchant, hein.
Franchement, j'en ai pas trop en tête.
Ouais. On n'a pas trop en tête.
Ne donne pas le joueur que Nico veut.
Ah non, je peux rien dire,
parce que la question.
Merci
Baptiste, la question est orientée. La question est orientée.
Qu'est-ce que c'est méchant?
Elle n'est pas objective, celle-là.
Exactement. Merci Baptiste.
Quel serait ton rêve absolu de footballeur, Baptiste?
Mon rêve absolu de footballeur, gagner des titres.
Des titres? Championnat ou Coupe d'Europe?
Lequel? Dis un titre.
Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.
Coupe du Monde arrive dans deux mois, on vient de parler, hein, tu vois.
Ouais, c'est accessible, hein, pourquoi pas. Des questions, les gars, encore ou pas?
Non.
Questions comme ça, décalées, à poser à Baptiste?
Alors, moi, j'ai jamais compris. Je sais que lui s'intéresse aux cheveux. Chevaux, comment on dit?
Aux chevaux.
Tu parles quoi, de l'animal ou de... L'animal, les chevaux, bien sûr.
Les chevaux.
Il est propriétaire, oui, il les entraîne, il les regarde.
C'est vrai que tu as acheté un cheval, je crois, Baptiste, non?
Oui, j'en ai plusieurs.
T'en as plusieurs, même maintenant.
Des chevaux de course?
Et d'où vient cette passion pour les chevaux?
Parce que dans la famille, on a toujours eu plus ou moins des chevaux, et puis je m'y suis intéressé, et puis c'est des chevaux de course pour répondre à votre question.
Des chevaux de course.
Puis je me régale. Le
meilleur match de Rennes cette saison?
Le meilleur match de Rennes cette
Lyon
saison.
À l'aller ou Lyon au retour?
Lyon à domicile.
Les deux,
c'était extraordinaire.
Deux bons matchs, mais à domicile, c'était top.
Tu préfères pas celui où tu as marqué?
J'aime bien parler de collectif, donc je dirais le match aller.
D'accord.
Merci Baptiste, c'était un plaisir de t'accueillir dans l'After sur RMC, on te souhaite une magnifique saison. Vas-y Simone.
Après ta carrière, entraîneur, dirigeant, comment tu te vois? T'as déjà pensé?
Les jeunes, 27 ans.
Les joueurs commencent à penser tôt.
Je sais pas trop, mais manager, coach, ou même dans un autre domaine que le foot,
T'as le temps de réfléchir.
Consultant télé, tu viens à l'After quand tu veux.
Dernière chose, Baptiste, également, c'est un conseil qu'on te donne. Il faut que tu trouves le moyen de changer ta photo de profil sur Wikipédia.
Ah oui. Ah, ça.
On a l'impression que tu as 8 ans et demi.
Ouais.
C'est pas toi qui es responsable, je pense.
Ouais. Qui va sur Wikipédia pour se
renseigner sur des joueurs de foot?
Personne, c'est Simone.
Ah, c'est Simone qui est.
Je vais te donner
d'autres sites, Simone. C'est pas Wikipédia.
J'ai cherché Baptiste Saint-Mariage, la première chose, c'était Wikipédia.
Bon, Baptiste.
J'ai tombé sur la photo et j'ai dit, c'est pas lui.
Vous avez lancé la saison de Rennes avec un derby, hein, dimanche prochain, pas celui-là, l'autre, face à Lorient. Ce serait un premier rendez-vous important pour vous?
Oui, c'est important de démarrer bien le championnat et puis en plus, dans un derby, donc il va falloir gagner.
Merci encore Baptiste, bonne soirée à toi.
Bonne saison.
Et à très vite sur RMC, on fera peut-être un point avec toi mi-saison, le Stade Rennais. Quand vous serez plaisir. Deuxième de Ligue 1 à deux points du PSG peut-être.
Nico maintenant est en prof principal. on fera un point.
Bonne soirée Baptiste, excellente soirée.
Ciao.
À bientôt sur RMC.
Ciao.
Bien Baptiste Santamaria.
Ah oui.
Écoute, hein.
Oui. Bien. J'avais l'occasion de le faire avec Wina, l'année dernière, quand il était à Fribourg. Et c'était toujours intéressant.
L'équipe de France, c'est utopique, très ambitieux, possible.
Non, oui, ça va être très compliqué.
Il y a du monde quand même, au terrain, les gars.
Ouais, très compliqué.
Il y a du monde.
Il faut y croire. Hein,
mais après, s'il fait une grosse saison avec Rennes...
C'est vrai que peut-être on se dit la Coupe du Monde, ça arrive dans.
Ouais, ça arrive très vite quand même.
Mais Rennes continue à monter en.
Je suis pas sûr qu'ils soient dans les plans de Didier Deschamps.
Mais il y a des joueurs qui sont arrivés un peu tard. Je pense Veretout, il est arrivé tard.
Oui.
Il est passé par pas un club qu'on considère généralement comme celui qui amène des joueurs en équipe de France, comme la Roma.
Pas faux, tout est
donc,
possible.
Donc ça a été ses prestations qui l'ont amené, pourquoi pas Baptiste.
Rennes qui sera tout à l'heure, peut-être 21h, dans nos prédictions Ligue 1, mon équipe frisson. Voilà, je vous le dis tout de suite.
Ah non.
Choisissez votre équipe frisson. Dites rien, les gars.
Pour l'instant. Alors.
Moi, ce sera. Ah, toi aussi, t'as mis Rennes.
On a le droit de faire des doublons, c'est pas grave.
Je vous rappelle que.
T'aimes le même foot que Nico Jamin, c'est pas très grave.
Vous pouvez nous appeler à partir de 21h pour vos prédictions, vos pronos Ligue 1 saison 2022-2023. Quel podium, qui pour les places européennes, qui dans la charrette, quelle équipe frisson, quelle équipe congélo aussi. Qui sera le meilleur buteur de Ligue 1? Quelle révélation à venir aussi? Qui sera le meilleur gardien de Ligue 1 par exemple?
Tu sais qu'est-ce que ça met dans les frissons les vendredis soirs?
C'est quoi?
Prévision de la route. Savoir si je prends du trafic ou pas quand je pars en vacances.
Il est fort parce que Louis Viala est de retour en studio dans un instant. On fera un point sur les conditions de circulation sur la route des vacances. Vous écoutez RMC, vous écoutez l'After en roue libre, Simonet, ce soir. Avec Simonet Rovera et Walid Acharchour, restez avec nous. On revient dans quelques secondes. A tout de suite.
RMC. On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin.
J'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière, il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit. Ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamin. L'After Foot sur RMC, merci d'être avec nous 20h59 avec Simonet Rovera et Walid Acharchour. Tout à l'heure, vos prédictions, appelez-nous au 32-16, appelez-nous nombreux pour donner vos prédictions. Quel podium, quelle équipe qualifiée pour les Coupes d'Europe, quelle équipe reléguée, elles seront 4 à l'issue de la saison. Également votre révélation de la saison à venir, votre meilleur buteur, meilleur gardien, votre équipe la plus excitante, également équipe frisson, équipe congélo. Voilà, nouveau concept dans l'after également. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16. Walid et Simonet ont déjà préparé leur prono pour la saison à venir. Mais d'abord, on parle du FC Barcelone. On va en Catalogne. Walid, tu penses que le Barça peut finir devant le Real Madrid cette saison? Jingle, Walid Acharchour.
Moi, quand je m'habille, quand je sortais, etc., je détestais mettre de l'argent dans des jeans. Je préférais mettre un beau t-shirt, une belle chemise, de l'argent dans des belles chaussures.
Ah bon?
Oui.
Confidence.
Oui, je faisais une analogie, une comparaison avec le PSG et le milieu de terrain du PSG.
D'accord. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, tu accordes de l'importance au pantalon?
Non, pas forcément. Pas. J'ai jamais mis plus de 100 euros dans un jean, par exemple, dans un pantalon.
Ok.
Je préférais.
Simonet n'a jamais plus de 20 euros dans une fringue, Simonet. Ah, donc.
Mais je préférais, quand je sortais, mettre de l'argent dans une belle paire de pompes ou dans un beau t-shirt ou une belle chemise.
Oui.
Et pour moi, on voit beaucoup plus ce qui se passe en bas
et après,
en haut.
C'est moi qui essaie un lourd libre ce soir?
Ah non, c'est
vraiment.
Ah non, mais vous mettez de l'argent dans les jeans, Nico? T'aimes les jeans?
Non, je dépasse non. Pas les 70 euros, je pense.
Ah, voilà.
Bon, de très bons jeans, dans des.
Donc on est d'accord.
Chez une enseigne japonaise, d'ailleurs.
Ouais.
Si une grande enseigne.
Le sponsor de Djokovic?
Exactement. Voilà, par exemple. C'est pas cher et c'est résistant.
D'accord.
C'était l'instant pub. Alors, on t'écoute sur le Barça.
Oui, je voulais parler du Barça par rapport aux gros mercato qu'ils sont en train de faire. Je pense que le Barça de Xavi doit être capable d'aller prendre le titre au Real dès cette année. Pour plusieurs raisons, parce que je parlais du mercato, mais ils ont été chercher le meilleur joueur sur ce mercato pour moi. Avec Lewandowski, un joueur qui met 40 buts par saison et qui vient d'avoir deux fois le trophée The Best sur les deux dernières années. Ils ont récupéré aussi hier le défenseur qu'il fallait prendre en Liga avec Koundé, qui est 100% compatible avec Xavi, joueur très jeune qui a montré avec Séville sa capacité à montrer sa fiabilité. Ils ont pris un joueur qui s'est révélé sous Bielsa, Rafinha, qui a à peu près la même idée de jeu de Xavi, c'est-à-dire avoir le ballon, avoir cette possession. Il a porté Leeds sur son dos alors que c'était une équipe très très moyenne sur la dernière année, une équipe de moitié de tableau. Ils ont prolongé le meilleur passeur de Liga, même si on a beaucoup de doutes sur Dembélé. L'année dernière, Dembélé a quand même mis 13 passes décisives et ces 6 derniers mois ont été convaincants, et on voit avec sa prépa qu'il va pouvoir faire des choses intéressantes l'année prochaine. Ils ont pris des joueurs libres aussi, très intéressant comme caissier, avec un profil différent de ce qu'ils ont au milieu de terrain. Christensen qui va peut-être pas partir titulaire, mais qui dans la rotation ou dans une défense à 3 peut apporter. Si on rajoute à ça les babies qui sont devenus des tauliers sur les dernières années, Arojo, à qui je porte beaucoup d'espoir sur les prochaines années, Pedri qui a été extraordinaire malgré ses petites blessures, Gavi, Ansu Fati qui va revenir de blessure, voilà un banc beaucoup plus fourni avec en fait l'équipe titulaire de l'année dernière, en fait elle sera sur le banc. Aubameyang sera sur le banc derrière Lewandowski, un Ferran Torres sera sûrement
sur le banc,
Depay, tu prends Eric Garcia qui était titulaire en défense centrale qui sera sur le banc, peut-être Piqué qui sera sur le banc. Donc en fait, tu te renforces globalement en termes d'effectifs. On rajoute à ça ce qu'a montré Xavi l'année dernière en termes de promesses sur le mois où ils vont battre le Napoli là-bas de façon très très convaincante, ils battent l'Atlético Madrid à la maison 4-1 de façon très convaincante, le Real Madrid, même si c'était sans Benzema, où ils mettent une gifle au Real au Bernabéu. Si on conjugue tout ça, je pense vraiment qu'ils ont, pour moi, les moyens aujourd'hui de concurrencer une équipe du Real Madrid qui a montré de très belles choses l'année dernière, mais qui s'est pas véritablement renforcée offensivement. Voilà, il y a pas eu de joueur qui est venu à droite. Ça va être sûrement Rodrigo, encore Valverde ou peut-être Asensio. Il y a Rudiger qui est arrivé. Tchouaméni, on va voir au milieu de terrain s'il va s'imposer en tant que titulaire. Et puis le Real Madrid, attention, ils sont gavés l'année dernière. Peut-être qu'ils sont un peu repu en termes de titres et que je pense que pour le Barça, il va avoir une réelle opportunité l'année prochaine. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'ils se sont donné les moyens pour être compétitifs sur toutes les compétitions, que ce soit Liga, Ligue des Champions ou Copa del Rey. Et je crois beaucoup en Xavi et en le Barça cette année.
Ça m'a échappé, ou peut-être parler de Jules Koundé également.
Bien sûr, j'ai commencé avec Jules Koundé.
Simonet, est-ce que tu es d'accord avec Walid qui voit plus qu'un concurrent au Real, une équipe qui peut terminer devant le Real?
Ah oui, moi je pense que
les arguments donnés par Walid sont tout à fait logiques et cohérents. Après, c'est une saison sur laquelle il n'y aura pas beaucoup de temps pour travailler. Il faudra travailler dans les matchs, retrouver des automatismes dans les matchs. Le Real, c'est une machine parfaite. C'est une machine qui, aujourd'hui, sauf si une des pièces qui n'a pas besoin de pièces détachées, sauf si quelque chose se casse. C'était tellement parfait dans l'état d'esprit, dans le jeu à sa façon, dans le jeu d'Ancelotti, que peut-être n'avait pas vraiment besoin de trouver des nouveaux joueurs. Le Barça, c'est une révolution presque totale. C'est vrai que Xavi reste, mais c'est vraiment une...
révolution totale, je trouve ça fort comme mot.
5-6 joueurs, les titulaires vont changer. C'est beaucoup. Il y a Lewandowski, c'est vrai, qui arrive dans un système qui n'est pas totalement différent, parce que le Bayern, c'est quand même un jeu beaucoup de possessions. Lui doit être efficace dans la surface, mais bon, c'était un rôle de taulier. Je ne sais pas s'il sera un taulier aussi au Barça, même s'ils ont besoin de quelqu'un que soit leader à 360 degrés. Donc, c'est vrai qu'il y a tous les ingrédients pour. Après, est-ce qu'on a les temps pour préparer cette recette avec tous les ingrédients qu'il y a? Xavi, c'est quelqu'un qui veut imposer son jeu. C'est pas seulement on se met ensemble, quelque chose va s'en sortir. Donc, oui, il y a toutes les possibilités pour arriver là où tu dis. Après, ça va être pas automatique, ça va être pas simple. Et cette saison, avec la coupure, avec les joueurs qui vont partir à la Coupe du Monde, etc., pour moi, c'est pas la meilleure pour une révolution. Et pour moi, c'est une presque révolution de ce que va se passer cet été au Barça. Donc, pas si simple que ça, même si tu as dit des points sur lesquels j'ai...
Oui, parce qu'aujourd'hui, avec ce recrutement-là, les efforts qu'ils ont faits, le processus entamé par Xavi l'année dernière, où il arrive après Koeman, où c'est très très compliqué notamment, et il montre des belles choses, même si la fin de saison a été un peu plus approximative. On doit attendre quoi du Barça cette saison? Si ce n'est pas être un concurrent au titre.
Tout à fait. Non, mais
aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais
c'est gagné.
Moi,
d'être champion d'Espagne.
Moi, je suis assez excité par le.
Au moins,
c'est ce que je viens de dire. Pour moi, le Barça doit gagner la Liga pour toutes ces raisons. Parce que déjà, moi, je suis assez excité parce qu'à.
Non, mais la question, c'est est-ce que t'en fais un favori, toi?
Non, mais aujourd'hui.
Tu le mets sur le même niveau que le Real Madrid.
C'est pas le débat. Aujourd'hui, c'est pas un favori parce qu'en fait, il y a le Real qui vient de gagner la Ligue des Champions, qui vient de gagner la Liga. Mais attention, ils ont gagné la Liga et moi, j'enlève pas la performance à Carlo Ancelotti. Parce que ils ont fait une super saison.
Dans une Liga avec moins d'adversité, quand même.
Mais ils ont fait une Liga avec une équipe de l'Atlético Madrid qui a fait une saison catastrophique alors qu'ils devaient normalement assumer un back-to-back avec le recrutement de Rodrigo De Paul, avec Griezmann, Cunha, etc. Ils ont failli, et une équipe du Barça qui, moi, j'ai 28 ans, je regarde le Barça depuis 2004-2005, j'ai jamais vu une équipe du Barça aussi nulle sur la première partie de saison que l'année dernière. Ils se sont écroulés institutionnellement, ils ont perdu un joueur comme Lionel Messi, et ils ont pas réussi à se relever de tout ça. Le Real, ils ont gagné cette Liga, dans cette saison-là. Donc, il va falloir voir avec un peu plus de concurrence et avec un Barça à leur taille. Maintenant, pour répondre à ta question, Nico, bien entendu que le Real est favori parce que c'est le champion sortant. Maintenant, si on regarde sur les dernières années, c'est dur de faire des back-to-back. Le Real Madrid a fait très, très peu de back-to-back. C'est très dur
d'enchaîner, deux titres, quoi.
C'est très dur d'enchaîner deux titres d'affilée comme ça en Liga, et je me dis que, et encore on parle du recrutement, j'ai énuméré, mais là on est en train de parler de Bernardo Silva qui pourrait arriver, c'est pas terminé. Quand on entend le 11 ou quand on lit le 11 avec Ter Stegen, Araujo, Koundé, Dest, Alba, Busquets ou De Jong, Kessier, Pedri, Dembélé ou Rafinha sur le côté, Ansu Fati et Lewandowski, et derrière tu peux avoir des joueurs comme en sortie de banc comme Memphis Depay, comme Aubameyang, comme Ferran Torres, comme Gavi, le petit prodige de 18 ans. Je suis désolé si on m'explique que le Barça doit pas aller gagner la Liga cette saison.
Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, pour le recrutement qu'ils ont fait, aussi pour un peu pour la propagande, la politique, le fait que au final ils arriveront à tout faire, même si cette histoire de Young ça passe un peu mal.
Faudra voir.
D'un niveau d'image, à niveau du vestiaire, à niveau de l'opinion publique. Aujourd'hui, il y a eu les tweets. C'était quoi? C'était Phil Neville qui a fait un tweet en rigolant un peu sur l'histoire du salaire de Young. Il y a tout le monde Barça, la presse locale qui a pris les relais.
Le Barça qui le pose à la sortie, absolument. Oui.
Barça, donc on se rend compte que
pas vers la sortie, ils veulent qu'en termes de salaire ils baissent le salaire.
Un vrai effort.
Non, mais on a l'impression que la barre est mise vraiment très très haut, même peut-être trop haut en rapport à la difficulté de l'année dernière. On dirait qu'ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter, même plus, j'ai l'impression. Et tu mets plein de choses dans le même panier. Est-ce que tu arriveras à faire ce qu'il faut? C'est-à-dire, pour moi, ils vont même faire trop. Quand tu fais trop, pour vouloir montrer que tu peux les faire.
Ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de Koundé, ils avaient besoin de Lewandowski.
Ils avaient besoin de Rafinha.
Oui, je pense que. Mais Rafinha, le problème avec Rafinha, c'est que Dembélé, il a fait 6 très bons mois. Sauf que Dembélé, sur les 3-4 dernières années, il a déçu. Donc, tu étais obligé en
ils
fait.
Ils ont besoin de Bernardo Silva.
Bah, Bernardo Silva, non.
Après, c'est un joueur qui a besoin de
Bernardo Silva. Il est pas encore arrivé, Simone, donc on en parlera.
Toujours besoin de Bernardo Silva.
On verra. Mais aujourd'hui, pour jouer sur les deux tableaux Ligue des Champions, Liga, tu peux pas jouer qu'avec Dembélé et ailier droit. Surtout qu'il y avait un gros problème d'ailier dans cet effectif où ils n'arrivaient pas à avoir de la profondeur, avoir de la largeur dans ce que voulait Xavi.
Je renverse la situation. Si tu gagnes la Liga, tu fais ton devoir. Si tu ne la gagnes pas, c'est un échec.
Et donc, donc en fait, on est d'accord par rapport. Enfin, un échec, je te dirais.
Oui, mais lui, il y a des doutes en revanche sur la capacité du Barça dès cette saison à rivaliser avec le Real Madrid. C'est ce que dit Simone.
C'est pas un parcours c'est un parcours de montagne et tu penses pouvoir le faire à plein vitesse. Tu dois aller de graduel.
Je comprends pas ton avis. Quand je t'ai expliqué que moi, pour moi, l'ambition, c'est de gagner la Liga, tu m'as dit que.
J'ai dit que eux mettent la barre trop haute. C'est-à-dire eux, je pense que le monde Barça, les dirigeants, les présidents, les supporters, les médias autour de Barça, ils la pensent comme toi. Mais pour moi, c'est mettre la barre trop haute, de dire, on a tous acheté, on a acheté tout le meilleur, tout ce qu'on pouvait, donc on doit gagner, on va gagner.
Donc ce serait pas un échec alors si on suit ton raisonnement de pas gagner la Liga.
Moi c'est l'homme logique.
Pour toi c'est trop tôt.
C'est l'homme logique, mais selon la logique, on va les faire parce qu'on a pris les meilleurs, on a dépensé une incroyable somme d'argent parce qu'on pouvait les faire. On nous a dit qu'on était pauvres. Non, regardez, on peut dépenser, on est hyper riche, on va tout faire. À ces points-là, si tu mets la barre trop haute et après tu arrives pas à sauter au-delà de la barre, c'est un échec.
C'est un échec. Dembélé, les gars, je qu'on parle d'Ousmane Dembélé quand même, qui a fait deux fulgurances là en amical contre la Juve. C'est ça, Simone?
Ordinaire.
Est-ce qu'il faut s'attendre à une grosse saison de Dembélé qui est délestée de ces questions de prolongation ou non? Et bon, la grande question de Dembélé, bien sûr, c'est son physique et ses blessures. Moi, je pense que ça va être une saison Dembélé.
Quand, quand tu vois le match amical face à la Juve, la façon dont il marque, la façon dont il met la misère à ses adversaires.
Il marche solo dans ces cas-là.
Tu t'es dit, on espère de retrouver les Dembélé qu'on connaît, les Dembélé des Dortmund, parce que moi je n'ai même pas les Dembélé des meilleures années, parce que au Barça pour moi il n'y a pas eu des meilleures années. On espère avoir retrouvé ces joueurs-là parce que c'est magnifique, c'est extraordinaire, ça donne des frissons et t'as l'impression qu'il peut être l'homme clé d'une saison dans un gros club comme le Barça. Je ne parle même pas de l'équipe de France, il y a la Coupe du Monde. Donc oui, on espère, mais avec lui, malheureusement, là aussi, on a l'impression de mettre toujours la barre très haute. Commençons à espérer qu'il fait une saison à 40 matchs. Bon.
Non mais, moi pour moi, déjà d'une, j'ai envie d'y croire, parce que Ousmane Dembélé a montré l'année dernière qu'il avait les aptitudes pour.
Il finit meilleur passeur en 5 mois, hein,
voilà, 13 passes. Il joue 5 mois, il fait 13 passes décisives en Liga. C'est quelque chose à valoriser. C'est un joueur qui a réussi sous Xavi à s'imbriquer à ce que voulait l'entraîneur espagnol. Et puis surtout, aujourd'hui, moi je trouve qu'avec l'arrivée de Rafinha, ça peut le stimuler. Et que, en fait, le grand gagnant, c'est le Barça. C'est qu'avec Dembélé et Rafinha, je pense aux latéraux espagnols qui vont se manger 60 minutes de Rafinha, 30 minutes de Dembélé, ou 60 minutes de Dembélé et 30 minutes de Rafinha, et je pense qu'ils vont être en grande difficulté. Et tu t'assures une méforme possible de Dembélé dans la saison ou une possible blessure avec un joueur qui, l'année dernière à Leeds, était incroyable et qui a montré qu'il pouvait prendre le lead, et on l'a encore vu aussi dans les matchs de prépa. Rafinha, premier match, but incroyable contre le Real Madrid. Il a de l'insouciance, il a de la personnalité. Et ça, c'est ça qui est important dans ce genre de club, c'est qu'on se dit souvent « Ah, mais la concurrence, attention, etc. » C'est ce qui est important. C'est qu'aujourd'hui, un Dembélé, il sait très bien que s'il est pas bon, il va sortir. Un Ansu Fati, s'il est pas bon, bah, il y a Ferran Torres. Un Lewandowski, eh ben, il y aura d'autres possibilités s'il est en méforme, ou en tout cas en sortie de banc. Et c'est ça qui est important pour revenir sur ce que je disais sur le débat tout à l'heure. Et je pense que Dembélé a tout pour que cette saison, ce soit la sienne. Voilà.
De voir le Qatar en novembre.
Exactement.
Par exemple. Ross est avec nous, 32-16, supporter du Barça. Salut Ross.
Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Bienvenue à l'After. Salut, bien et toi?
Salut. Ça fait un bout de temps. Les vacances se passent bien?
Malheureusement, on n'est pas encore en vacances.
Bientôt pour Nico.
Si tu nous parles, c'est qu'on est encore au travail.
Je vous taquine.
Ça ne saurait tarder. Bon, Ross, tu as écouté la vie de Walid, hein, qui fait du Barça. Évidemment, le concurrent numéro 1 du Real, mais qui verrait bien le Barça être champion cette saison. Qu'est-ce que tu en penses?
Pourquoi pas, mais il faut avancer avec une certaine humilité. Il y a eu pas mal de recrues cette année, avec un travail considérable de la direction pour les recrues. Tout le monde s'étonne un peu de pouvoir recruter tous ces joueurs-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça a cédé certains droits à l'image pour pouvoir
vendre
à des firmes étrangères, donc qui a renfloué un peu les caisses. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de recrues. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a quand même des carences, il faut le noter, les latéraux. Jordi Alba n'a pas de remplaçant. Alves est parti, c'est Dest qui reprend le flambeau. Donc je pense que la manière de se prendre, Xavi a commencé un beau projet, mais il faut avancer avec humilité, il faut un bon parcours en Champions League et un bon parcours en Liga. Maintenant, si on peut le gagner, un des deux trophées, tant mieux, mais il faut avancer pas à pas, il ne faut pas être pressé. Je pense que 2024, ils seront prêts.
Ross, si il n'y a aucun titre cette saison avec le Barça, est-ce que tu considéreras cette saison comme un échec?
Un échec, parce qu'on est exigeant avec le Barça.
Donc voilà. Mais quand tu parles d'humilité, nous en tant qu'observateurs, quand on voit ça, quand on voit ce qu'ils ont fait l'année dernière, on est obligé d'être exigeant avec cette équipe et de demander des résultats et un contenu qui va vers le mieux.
Je suis d'accord. On est d'accord. Mais après, faut être lucide avec les forces en place. On a Piqué qui est en fin de carrière, qui est encore un taulier. Il y a Busquets qui est encore là. Il faut les remplacer, on ne les a pas encore remplacés. Il y a De Jong qui est en partance. Il y a des choses qui vont se passer, on ne sait pas si la mayonnaise va prendre. Pour le moment, c'est prometteur. Je suis content de la préparation, mais il faut être prudent. Avec le Barça, on a vu ces dernières années, on a été surpris par pas mal de choses. Donc je suis prudent, mais confiant. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit.
C'est l'état d'esprit. Il y a une déclaration de Joan Laporta également que je découvre ce matin là en me réveillant, qui confirme ce qu'il avait déjà dit, son rêve de faire revenir Léo Messi au Barça. Il dit: nous avons une dette morale envers lui, j'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça sur les épaules et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. J'allais te poser la question, mais j'ai déjà la réponse, mon cher Ross. Hein.
Non, c'est vrai que la sortie a été malheureusement, avec le Covid, avec le contexte financier un peu bancal, il n'a été une meilleure sortie, mais l'histoire est terminée. Mais s'il restera le plus grand joueur de l'histoire, c'est un fait. Mais renouer avec son ex, c'est jamais bon signe. Moi, je pense que l'histoire est terminée. Il devrait aller à Rosario. Moi, je pense
que sa carrière en Argentine
serait magnifique, ce serait beaucoup plus beau que de revenir au Barça, sincèrement.
Bon, il ira sûrement aux États-Unis, hein. Sauf si le PSG arrive à le prolonger, comme c'est le plan de le prolonger d'une saison supplémentaire, donc jusqu'en 2024. Merci, Ross.
Merci,
Ross.
Merci à vous.
Bonnes vacances à toi.
Et j'ai une salutation à mes amis Manolo et Alexis.
Eh bien, c'est passé. Le message est passé. Bonne soirée à toi, Ross,
merci
les gars. Oui, bon, il a raison. Prudence, tu vois. Plus prudent que nous.
Ouais, un peu.
Il a raison.
Il se blanchit un peu.
Tu penses?
Ouais.
Bon. Voilà pour le FC Barcelone, les gars. Il y a Camille qui nous appelle également, qui va être avec nous dans un instant, peut-être, supporter du Barça. Bon, la déclaration de Laporta sur Messi, je ne sais pas ce que ça vaut, les gars.
Alors, c'est une très mauvaise idée pour moi. C'est-à-dire, moi, je peux comprendre Laporta.
Tu crois à ces déclarations? C'est encore une fois une sortie un peu démagogue.
Moi, je crois au fait que Laporta aimerait faire retrouver Messi, parce que au final, ce serait presque une revanche d'image. Il est parti.
Pourquoi il l'a pas fait cette année alors?
Parce que cette année, il avait un contrat.
Mais
c'est pour ça.
Si Messi avait envie de revenir au Barça et que Laporta avait les sous pour le faire. Peut-être qu'il aurait.
Alors, il a raison, si Messi n'est pas prolongé par le PSG, en janvier, il est libre.
À partir du mois de janvier, tu peux trouver un accord. Et après, te dire, on le fait revenir. Mais moi, je pense que ce serait une mauvaise idée. T'as tourné la page, tu fais une équipe jeune, tu prends Lewandowski comme symbole sur les prochaines années. T'as Gavi, t'as Pedri, t'as la jeunesse pour arriver à Tansoufati. T'as la jeunesse pour tourner les Barça vers l'avenir. T'as pas besoin de Messi. Ce serait, oui, peut-être une belle idée à niveau marketing. Tu vas remplir à nouveau un milliard de fois les stades, mais ça va être toujours plein. Tu vas revendre un million de maillots Messi. C'est magnifique. T'imagines s'il gagne pas la Ligue des Champions avec Paris et tu fais aussi passer le message. Il revient ici parce que ici, il pense pouvoir la gagner et à Paris, non. Je serais beaucoup de communication. Mais au final, et marquerait peut-être deux buts aussi, hein, ça serait un peu à la Cristiano Ronaldo, qui c'est un joueur qui peut marquer des buts encore malgré l'âge. Mais pour moi, c'est une mauvaise idée à niveau de faire tourner le Barça vers l'avenir.
Ce serait sûrement une mesure symbolique, en réalité. Camille est avec nous, supporter du Barça au 32-16. Salut Camille.
Ouais, salut.
Salut Camille. Bienvenue dans l'After. Camille, tu nous appelles également pour réagir à l'avis de Walid sur la saison à venir du Barça.
Bah ouais, après moi je suis pas d'accord avec tout, parce que du coup là, le recrutement du Barça, je trouve que il a été plutôt intelligent, dans le sens où t'as recruté des jeunes, tu fais confiance aux jeunes, tu les gardes, tu fais tout ce qu'il faut pour les garder, et du coup tu recrutes des mecs comme Lewandowski pour tenir un peu le vestiaire. Moi je pense vraiment que Xavi il a validé mais vraiment tous les transferts, et on lui a donné les billes pour le faire. Après, savoir où ils ont trouvé les sous ou pas, je sais pas, hein,
ça on l'a expliqué, hein, non, on l'a expliqué, ils ont du 20% de droits télé, notamment le sponsoring Spotify, on l'a raconté dans l'After hier notamment. Vas-y Camille.
Mais en quoi t'étais pas d'accord, Camille, en fait?
Mais vraiment, je pense qu'on a donné toutes les clés à Xavi et il a validé tous les transferts. C'est après, il y a quelques réglages sur De Jong, trucs comme ça, les masses salariales, mais vraiment je pense qu'il y a vraiment une équipe complète. Et et le truc, c'est que on parlait tout à l'heure de Dembélé, avec le recrutement de Rafinha. Le truc, c'est que Dembélé, il a tout le temps à porter, sauf qu'il a été souvent blessé. Et d'avoir un compète comme Rafinha, comme un tel joueur qui peut jouer à tous les postes et qui peut remplacer Dembélé en cas de blessure, franchement, mais pour moi, c'est top recrutement. Il n'y a qu'à voir le but qu'il met contre le Real de Madrid, c'est no, hein.
C'est vrai, exactement, mon cher Camille, on n'a rien à rajouter. Merci de tes précisions également. Merci Camille.
Merci beaucoup Camille.
Pas de souci, merci.
Bonne
les gars,
soirée à toi. Soirée. Bonne soirée à toi. À bientôt dans l'After. Allez, on vient dans un instant, les gars. On ouvre notre dossier pronos, prédictions, Ligue 1, saison 2022-2023 avec Simonet et Walid. Appelez-nous 32-16, tiens, pour participer à cet ensemble de questions.
C'est prêt chez toi, Nico?
C'est prêt. Ouais. Avec arguments, c'est écrit. C'est prêt. C'est dans la tête. Quel podium, quelle équipe qualifiée pour la Coupe d'Europe, quelle équipe reléguée, quelle révélation, quel meilleur buteur à venir selon vous, quelle équipe frisson aussi. On vous attend nombreux, 32-16 dans l'After ce soir avec Olivier Descharchour et Simonet Rovera. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Jamain.
Avec Simonet Rovera et Olivier Descharchour, merci d'écouter RMC, l'After, 21h24 exactement, on est ensemble jusqu'à 22h, messieurs. Tiens, avant de lancer nos prédictions Ligue 1, hein, cette information à l'instant, On a parlé en début de semaine de Cristiano Ronaldo qui est revenu à Carrington après 3 semaines d'absence, 3 semaines après ses coéquipiers, et qui vient de poster un message sur Instagram, sachant que United joue un dernier match amical à Old Trafford contre le Rayo Vallecano dimanche. Il a écrit « Sunday, the king plays ». Voilà. Dimanche, le roi joue, tout simplement. Alors, est-ce qu'il parle de lui? Tu penses?
Non. Et on a vu aussi que Ferguson allait revenir dans...
Oui, en tant que conseiller. On a appris ça également aujourd'hui.
Dans l'organigramme.
Ça peut être qui les rois? Chris. Et parce qu'il part des Zlatan? Non, je sais pas.
Varane, peut-être?
Non. Wow. Au Rayo Vallecano, il n'y a pas un.
Cantona?
Non.
Non?
Non, bah, c'est lui qui va jouer. C'est bien, mais donc il.
Non, non, pas... c'est un match sérieux, les gars, c'est un match au prépa. C'est le dernier match au prépa du United.
Bah, faut bien qu'il commence
ouais,
à
préparation.
Donc, a priori, le roi, c'est lui, on est d'accord.
Bah, oui, bah, oui.
Bah, parce que Cristiano parlerait du roi quand quelqu'un joue l'autre. C'était. Imagine Zlatan qui dit, c'est Lukaku, c'est le roi, hein, vraiment.
Ouais, écoute, non, on l'aime pour son boulard aussi.
Ce feuilleton commence, moi, à m'exaspérer.
Ah oui?
Ouais, mais vraiment.
Pourquoi?
Parce que je trouve que c'est ridicule.
Vas-y, enchaîne.
Lâche-toi.
T'as peur, j'ai l'impression.
Dis la vérité.
Vas-y.
Mais pas du tout.
Sorte tes tripes. Vas-y, va au fond des pincées.
Revenir 3 semaines après. Revenir à 3 semaines. Avec 3 semaines d'absence, avec son agent à Carrington, tout ce qui circule autour de lui, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu à un moment donné. Mendes qui fait le RP pendant 3 semaines pour trouver une porte de sortie uniquement pour jouer la Ligue des Champions. J'en avais parlé ici, mais son obsession à la Ligue des Champions, moi,
oui.
Alors qu'il a cassé le jeu en deux.
Ah, il en veut 6. Hein.
Non, mais pendant 15 ans, je comprends pas. Et puis surtout, il met en porte-à-faux son image et il met en porte-à-faux surtout Manchester United, parce que s'il revient là dans le groupe la semaine prochaine, ils vont commencer le premier match. Bah, ils ont fait une prépa collective pour rien du tout, parce qu'il va devoir revenir dans l'équipe, et Ten Hag va devoir changer quelque chose pour que Ronaldo soit intégré, parce que c'est très différent de jouer avec Ronaldo et sans. Et s'il part, bah, Manchester United, ils vont devoir trouver un numéro 9 qui met autant de buts que lui en 3 semaines. Et c'est très très compliqué. Donc je trouve sincèrement que de la part de Ronaldo, c'est juste
par d'égoïsme.
Non, mais c'est après clairement. C'est comme ça. C'est la race des grands champions. On aime ou on n'aime pas. Mais moi je trouve ça. Mais moi je trouve ça ridicule.
Et si s'il n'était pas comme ça, il serait jamais devenu Cristiano Ronaldo.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pas à 37 ans comme ça à ce moment-là. Quand on
mais
parle,
c'est pas qu'il devient comme ça à 37 ans. Non, mais il était comme ça toute sa vie, toute sa carrière.
De l'Atlético Madrid, Simone. Quand on parle de l'Atlético Madrid.
L'Atlético de Madrid.
Alors que donc c'est à dire qu'en fait Ronaldo pourrait aller à l'Atlético de Madrid et se fâcher en fait avec les supporters du Real Madrid alors que c'est une légende là-bas, et Manchester United uniquement pour aller mettre deux buts en phase de poule ou en huitième de finale de Ligue des Champions. Ça va changer en quoi la carrière de Cristiano Ronaldo? Ça a été un géant pendant 15 ans, il a marqué tous les livres d'histoire. Reste à United ou je sais pas, mais à un moment donné, ou soit clair, ou déjà ne loue pas 3 semaines d'entraînement. Déjà.
Walid, c'est pas une question de d'Atlético. Je suis d'accord avec toi sur le fait de l'Atlético.
Le patron de l'Atlético, c'est terminé.
Déjà de le penser, moi, ça me fait vomir déjà.
Mais est-ce qu'on est sûr qu'il voulait aller à l'Atlético?
Je sais pas.
Est-ce que ça fait partie des hypothèses peut-être plus fantasieuses?
On est sûr qu'il voulait partir.
On est sûr qu'il veut jouer à la Ligue des Champions. Après, il veut pas la jouer dans un club moyenne.
Le Bayern, ils ont dit non. Chelsea, ils ont dit non. L'Atlético Madrid, ils ont dit non. Et là, il va revenir à Manchester United, alors que donc à Carrington, il va jouer demain devant à Old Trafford.
Dimanche
à Old Trafford, comme si de rien n'était en fait.
Si, il parle de lui, hein, le roi.
Mais après, c'est la seule chose qui m'agace dans cette histoire, c'est que lui, c'est les premiers, peut-être pas les premiers, mais c'est un des fautifs de l'échec Manchester sur la non-qualification en Ligue des Champions. Il était bien là, oui, il a marqué 20 buts, mais il était là, donc fait partie de l'équipe qui s'est pas qualifiée.
Oui, mais après lui il a fait sa contribution avec
ses buts. Mais ça fait partie des joueurs qui n'ont pas qualifié Manchester. Donc si moi je comprends son obsession pour la Ligue des Champions, parce que je le comprends, il veut la faire, s'il est habitué à jouer au plus haut niveau, il veut pas connaître l'Europa League.
Il veut la faire à tout prix.
Il veut pas jouer à l'Europa League.
Quitte à avoir connu l'Europa League, ce garçon.
Quitte à entacher son image. Bah, moi je trouverais ça beau que Cristiano Ronaldo gagne l'Europa League et qu'il soit compétitif en Coupe du Monde avec le Portugal, peut-être sa dernière Coupe du Monde. Je trouverais que ce serait une très belle saison. Et puis la Première Ligue, c'est le meilleur championnat au monde. Il joue pas là, il est
bon,
pas
apparemment.
Il joue pas la Ligue de Perlin Pimpin quand même.
Tu parles avec une logique.
Tu parles
avec une logique humaine.
Avec
Ronaldo,
une logique de,
c'est une logique de, d'être okay, supérieur.
Tu es juste un simple mortel.
Oui, bah, je suis un simple mortel, mais je peux quand même me mettre, prendre un peu de recul et me dire que je trouve ça ridicule. Pas le droit, pas.
Lui, il peut pas prendre de recul.
C'est Achille. J'ai vu le film hier, 3. C'est ça, le mec. C'est un dieu. C'est au-dessus de nous, tout ça, tu sais. Ouais, enfin, il sait que Messi également a 15 buts de lui en Ligue des Champions. Il a peur de ça. Il veut rejoindre Paco Rento qui a 6 Ligue des Champions. Il en a 5.
D'accord. Alors, voilà. Je vous raconte une chose. Allez. On m'a dit ça. Après, je ne sais pas si je peux la dire. On a dit un repas il y a quelques jours. Je ne sais pas si je peux la sortir ou pas.
Bah, sort.
Apparemment. Je peux pas.
Vas-y, Simon.
Apparemment, on m'a dit que Cristiano a fait tous les calculs sur combien de buts vont marquer Mbappé et Hollande en Ligue des Champions sur les prochains 10-15 ans. Ah. Et il veut marquer plus pour ne pas être rattrapé, en sachant que la Ligue des Champions va augmenter les matchs. Voilà, je l'ai dit.
Ça, on te l'a dit, c'est quoi? C'est un ressenti ou c'est quelqu'un qui parle avec des gens qui connaissent un peu le garçon?
Ah, tu sais, un proche, oui, voilà, proche, bon. Mais ça m'est semblé.
Tu vois, mais moi, dans son logiciel, je serais pas étonné. Je serais pas étonné.
Ouais.
T'es estomaqué, toi, là?
Non, oui, mais c'est. C'est probable. Hein.
Il a fait tous les calculs.
Non, mais les grands champions, c'est comme ça. Hein.
Non, mais c'est intéressant ce que dit Simonet. Pourquoi pas?
Les grands champions, c'est comme ça. Pas forcément d'ailleurs.
Donc en fait, c'est quoi, quoi, donc il va jouer jusqu'à 41 ans pour continuer à mettre ses petits buts.
Si tu peux rajouter deux ça,
après, non, c'est drôle cette histoire parce qu'à un certain moment
plus, en fait,
où Pippo Inzaghi comptait tous ses buts parce que c'était un moment où
Pippo Inzaghi à l'entraînement. Les gars, je vous rappelle aussi.
Pippo Inzaghi, à un certain moment, était meilleur buteur de la Ligue des Champions devant Raoul, etc. Et là, il faisait tous les calculs. Après, ça en arrivait tous les autres derrière. Donc, à un certain moment, quand la Ligue des Champions va passer à 50 matchs par saison, parce que Seferin veut ça.
Non, c'est pas ça mon foot, mais après, chacun fait comme il veut.
Chacun pense
comme il veut, surtout.
Bon, en tout cas, a priori, ça a confirmé, il va rejouer avec United dimanche contre le Rayo Vallecano à Old Trafford. Voilà, les gars. Bon, sauf si il fait mention de. Il parle de Sir Alex Ferguson.
Ouais, peut-être.
Il revient dans un rôle de conseiller qui sera.
Peut-être.
Bon, il a toujours été en tribune, hein, Ferguson, hein, depuis sa retraite. Donc non, a priori, il parle de lui. Voilà pour Ronaldo, les gars, on fait une pause. On vient dans un instant pour lancer cette fois-ci nos prédictions. C'est ça l'after de l'été. Des débats imprévus. Voilà, autour de Ronaldo.
C'est quoi?
On n'en a jamais parlé, évidemment, depuis le début de la semaine, d'ailleurs. Mais bon. Par les 10 fois, je pense. Mais bon, l'information de Simonet était intéressante.
Ouais,
quand même,
hein.
Il a peur de Ronaldo a peur de Messi et Haaland.
Mbappé et Haaland. C'était, on peut dire, un troisième.
Non, mais ça compte pas.
Ce serait pas surprenant et pourquoi pas.
Là où je suis surpris, c'est déjà l'information, c'était un raisonnement que moi je n'avais pas, donc je remercie Simonet. Mais c'est pas non plus.
Mais
tu te mets pas en danger non plus.
Ça va aller, c'est pas dingue.
C'est pas ton pote italien qui va t'appeler pour te dire Simonet, tu m'as balancé, c'est horrible.
Ça va.
On m'appelle, mon téléphone chauffe. Cristiano veut me voir.
C'est pas dinguissime.
Allez, on revient dans un instant pour les prédictions de Simonet Walid et les vôtres, bien sûr. Appelez-nous au 32-16 pour le cycle Ligue 1 saison 2022-2023. A tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
L'Afterfoot, Simonet Rovera, Walid Acharchour. On est ensemble jusqu'à 22h after du 29 juillet. Merci de nous écouter pendant les vacances. Lundi soir, Saint-Gilbert sera de retour de vacances aussi pour les afters plus longs. Puisqu'on relance la saison, bien sûr, les gars. La vraie rentrée, ce sera fin août, hein, avec quelques nouveautés dans l'after. Les gars, vous en faites partie. Non, vous n'êtes pas des nouveautés, vous. Non, c'est pas vrai, d'ailleurs. Vous êtes là.
Je peux nous en dire un peu plus ou pas?
Pas encore, monsieur. Il y aura une communication partout. On va faire toutes les télés.
Lâche pas comme si
moi. J'ai une interview calée avec Sky, avec CNN.
Purmedia.com.
Morandini.com et compagnie. Girondin.com aussi. Ah ouais, voilà,
tu fais la tournée des popotes.
Bon. Messieurs, alors, les prédictions.
Allez,
Ligue 1, saison 2022-2023, un jeu qu'on aime bien.
On se mouille vraiment. Hein.
Pourquoi maintenant? Parce que la Ligue 1 reprend dans une semaine. Il y aura plein d'actu la semaine prochaine. On a le temps de le faire ce soir. Plusieurs questions que je vous pose, bien sûr. Qui sera votre champion? Quel est votre podium? Quels seront les clubs européens? Quelle est votre charrette reléguée? 4 clubs. Votre équipe frisson Ligue 1. Votre équipe congélo, celle, vous la regardez un dimanche 15h, vous avez froid dans la télé. Ouf. Il se passe rien.
Ouais.
Yaourt nature.
Moi c'est yaourt nature, ouais.
Plus 0%.
Ouais.
Tu rajoutes rien, pas de dulce de leche, pas de Nutella, pas de confiture.
C'est vraiment le dernier yaourt dans le frigo. Est-ce que tu le prends ou tu le prends
limite
pas?
Limite dérimée, ouais, dur, voilà, quoi.
C'est quelle date? Ouais. La date de.
Ouais, c'est.
C'est-à-dire qu'on est le 29 juillet, tu vois, demain c'est la fin.
Ouais.
Il reste plus que ça, mais tu vas quand même le manger, mais tu vas absolument rien
faire. Il fallait le manger avant les 22. OK?
Si tu veux.
C'est une semaine trop tard, déjà.
Bon, si tu veux, c'est un peu dur. Meilleur buteur également à venir en Ligue 1. Révélation de la Ligue 1, meilleur gardien. C'est parti, Walid, ton champion. Il y a un débat ou pas, les gars?
Non, pas de débat. Pour moi, c'est Paris Saint-Germain.
Je pense que Paris, moi, va tout écraser, tout cartonner. Voilà.
Ah, je suis pensé.
Non, on a pu passer à avoir une équipe qui pouvait. On se disait, ah, attention.
Mais je vois pas un plus 10, moi.
Ah, je vois un plus 15, tu vois.
Carrément. Oui. Moi, je vois un moins 10, moi. Moins de 10 points.
Moins de 10 points.
Moins de 10 points.
Paris champion
moins 10
avec
7 points. Deuxième.
D'accord.
Paris champion, moins de 10 points.
Moins de 10 points d'avance.
Moins de 10 points d'avance.
Ouais, je valide.
Saison Coupe du Monde.
Je valide.
Simonet, on est d'accord là-dessus?
Ouais.
Bon. Podium, les gars. Deuxième, troisième. Deuxième, quel est ton deuxième de Ligue 1, Simonet?
Lyon.
Pourquoi?
Parce que je suis séduit par les recrutements, parce que je trouve très intelligent le fait qu'ils ont bouclé pratiquement tous les postes rapidement, parce que je pense que la saison dernière c'était une annonce horribilis et que donner une deuxième chance à Peter Bosz, ça va amener des résultats. J'ai dit deuxième. Avec ou sans Paqueta, donc c'est pas l'effet que Paqueta reste qui pour moi mette une place un peu plus, un meilleur place au classement en rapport à l'année dernière. Donc confiance totale dans Noël sur les podiums et je suis convaincu que ça va être une belle équipe cette année vraiment.
Ton deuxième de Ligue 1, Walid.
Lyon chez moi aussi.
Waouh.
Pourquoi Lyon très rapidement. Je trouverais ça inconcevable que l'Olympique Lyonnais cette saison, après, je crois, c'est 3 saisons sans Ligue des Champions minimum.
C'est ça.
Dans une saison où ils n'auront aucun match européen. Donc c'est championnat plus Coupe de France. Pendant que Nice va jouer la Conference League, pendant que Rennes va jouer l'Europa League, pendant que l'Olympique de Marseille va jouer la Ligue des Champions, pendant que Monaco va commencer sa saison la semaine prochaine contre le PSV, je vois pas comment en fait l'Olympique Lyonnais avec leur effectif, alors il faudra attendre la sortie ou non de Paqueta parce que ça peut quand même changer pas mal de choses, mais je pense qu'avec un match par semaine, l'Olympique Lyonnais terminera deuxième.
Alors moi non, moi je mets Monaco les gars, deuxième de Ligue 1, parce que continuité de la saison dernière, parce que Clément, je pense qu'il a pris totalement la mesure de l'effectif, parce que tous les postes sont doublés. Alors il y a une interrogation effectivement en défense centrale.
Ça dépend. Et le remplacement de Chamini.
Exactement, de Badiachil. Je trouve qu'offensivement c'est la plus grosse armada avec le Paris Saint-Germain, à mon sens. Faut mettre ça en musique, mais je suis sûr qu'il va réussir à le faire, que le recrutement est bien
pensé. Après Monaco, Nico, c'est qu'il commence la saison en décembre quoi. Et à chaque fois.
Oui, mais ça va pas forcément reprendre comme ça.
Les deux dernières saisons avec Kovac.
Il y avait un doute avec Kovac déjà à la reprise de saison dernière. Plus trop validé par le vestiaire.
L'année d'avant aussi, il commence la saison en deuxième partie de saison. L'année dernière, c'est la même chose.
Ça va pas forcément se reproduire tous les
saisons. Oui, d'accord. Ça fait deux saisons quand même qu'ils sont en Ligue des Champions et souvent cette non-qualification leur fait beaucoup, beaucoup de mal. Et s'ils se qualifient, ils vont aller en Ligue des Champions et ça va être quand même très énergivore en termes d'effectifs. Donc, pour moi, j'ai mis Monaco troisième derrière Lyon, parce que comme d'habitude, ils vont avoir des soucis par rapport à leur reprise très tardive. Non, c'est le contraire.
Très précoce.
Voilà, très précoce. Et je pense qu'ils vont en payer les pots cassés sur la première partie de saison et que derrière, ils ont la qualité par contre pour terminer sur le podium et ils termineront troisième chez moi.
Bon, Monaco pour moi, troisième de Ligue 1. Le Monaco pour toi, Simonet?
Qui? Nice.
Ah oui, d'accord.
Alors, parce que monsieur se rapproche de Nice,
il ne veut pas avoir de problème dans sa vie quotidienne, parce que
Lucien Favre. Simple. Je fais d'accord. Confiance au
magicien fait, quoi.
Ouais, je fais
magicien
confiance
avec un effectif quand même
puisse avoir une impact. J'étais pas convaincu au début. Avec les semaines, je me rends compte que au final, il y aura quand même des équipes en concurrence qui sont pas si extraordinaires que ça. Vous voyez, moi je suis pas convaincu que Monaco fera une super saison. J'ai beaucoup de doutes, même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Je pense que aujourd'hui on a changé beaucoup d'opinions sur Monaco pour la lancer des 10 derniers matchs, quand c'était enchaîné une série de résultats et d'enthousiasme où tout allait bien. Et là on repart à zéro avec Monaco, donc j'ai beaucoup de doutes sur Monaco. Je la mette même pas européenne Monaco cette saison. dans mes prévisions.
Très très dur.
Je suis très très dur. Et Nice, quand je regarde aussi les adversaires, je vois que peut-être il a un temps d'avance, même si le recrutement n'est pas encore terminé, même s'ils ont changé d'entraîneur.
Ils ont recruté personne, non ?
Encore à faire.
Non, mais attends, mais Simonet, il y a deux semaines, t'es venu tout rouge, tout décoiffé sur Rennes parce qu'ils n'avaient pas fait un défenseur central.
Non.
Là, Nice, aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Et t'es en train de m'expliquer qu'ils vont être troisième.
Rennes devait les faire les défenseurs centraux. Son arrivée un peu tard. Ils sont pas peut-être une, c'est une bonne idée, l'autre un peu moins, peut-être. Je vais les dire après. Mais sur Nice, moi, j'ai les sentiments que en regardant ce qu'est en train de faire l'OM, final, l'OM, il faudra beaucoup s'adapter. Rennes, j'ai beaucoup de confiance et c'était là. C'est jouer la place troisième avec Nice. À final, j'ai mis Nice. Mais la paire d'aguerre de les deux défenseurs qui arrivent maintenant, à voir un peu. Nice, c'est pas qu'il n'a pas de défenseurs aujourd'hui. Il a les deux, mais après, il peut faire mieux.
Dante, l'année dernière, il a pris 5 cartons rouges en 5 déplacements à l'extérieur. Il a 37-38 ans.
Il y a Favre qui revient. Les choses, pour moi, vont changer. Et donc, je me suis dit, et tu peux même voir ma flèche, c'était dans les podiums Nice, non ? Pas dans les podiums, c'était dans les équipes européennes. Et après, j'ai mis la flèche. Je l'ai fait monter. Pourquoi ? Parce que l'équipe que j'avais mis sur les podiums, ça m'a pas convaincu. Et donc, c'est un peu par défaut. Voilà, je l'admets. C'est un peu par défaut.
T'es pas convaincu comme tu l'étais pour.
Je vois pas derrière Paris et Lyon une équipe qui soit pour moi vraiment supérieure aux autres. Et je vois Nice bon. Peut-être
en tout cas, tu te mouilles, hein, parce que Paris, Lyon, Nice, en podium, il faut le trouver, hein.
Ben non, Nice, il s'avance un peu quand même.
Il se mouille.
Ah oui, d'accord.
Ah, je me mouille.
Ironique. Non, pas du tout. Je suis très sérieux.
C'est audacieux.
Personne n'a mis Marseille sur le. Ah, toi, t'as pas encore.
Alors, moi, Rennes, 3ème de Ligue 1. Comme pour Monaco.
Marseille, bon. Donc,
continuité avec Genesio. Enfin, un gardien solide, Mandanda. Rennes a gardé ses meilleurs joueurs, à part Aguerd, bien sûr. Terrier, je pense, va confirmer, même plus, peut-être. Laborde, Magère va régaler. Ça y est, il connaît la Ligue 1.
Voilà. Ah ouais.
Des latéraux solides. Je crois réellement en Rennes. Je connais très mal, hein, les gars. Théâteux qui arrive et encore moins bien.
Rodon. Il a très peu joué avec Tottenham, mais qui est titulaire avec le Pays de
Galles. Voilà. C'est ma seule interrogation, mais je vois Rennes vraiment, vraiment intéressante.
Rodon, je l'ai mis devant à Théâteux pour l'importance que peut avoir Rennes pour moi cette année.
D'accord. Européen, 4ème de Ligue 1, les gars. Simonet.
Rennes, évidemment.
Walid.
Moi, j'ai mis l'Olympique de Marseille. Quatrième.
Ouais, moindre mal pour toi ou
ce sera moindre mal par rapport
plafond de verre quoi.
Non, parce que je pense que cette saison l'Olympique de Marseille va prendre un retard par rapport à encore au chamboulement de l'effectif, par rapport au coach qui arrive, qui a expliqué qu'il voulait quand même montrer à ses joueurs des principes différents de jeu par rapport à ce qu'ils ont eu avec Sampaoli, parce que je pense qu'en Ligue des Champions ils vont perdre quand même pas mal d'énergie et que les deux tableaux vont être quand même très très durs à jouer pour l'Olympique de Marseille, et que s'ils terminent troisième, bah il y aura l'Europa League derrière, et je me dis qu'avec la concurrence, qu'avec un Lyon qui sera à un match par semaine plus Monaco qui a montré sur la fin de saison que c'était une équipe pour moi beaucoup plus dimensionnée pour le podium, je pense que l'Olympique de Marseille terminera quatrième. Et encore, j'ai beaucoup beaucoup hésité avec Rennes jusqu'à la dernière minute de l'émission.
Bon, on se mouille un peu les gars, on y va franchement, hein.
Ouais.
Marseille, je pense ça va vraiment pas le faire, moi.
Ouais.
Je pense que ça va pas le faire avec Tudor également. C'est pas à cause des tensions avec Gerson, hein. Je pense que le vestiaire va pas valider, comme le vestiaire a validé Sampaoli.
Je
trouve ça très fragile en réalité. Et le recrutement, bon, on a parlé en long, en large, en travers. Il est pas terminé aussi à Marseille. On fait des prédictions, même si le mercato c'est la fin d'un mois.
Mais ils peuvent encore perdre des joueurs. Hein.
Ils peuvent perdre des joueurs. Défensivement, c'est dur sans Saliba quand même. Et je vois un effectif. Je suis très sévère, attention là, un fait de bricolage, de briques et de broc parfois. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'interrogations sur des postes clés.
Moi, je
les vois cinquième.
Je suis toujours donné, et je continue à donner beaucoup de crédit, de confiance au travail de Pablo Longoria. C'est vrai que cette année, toi, même sur les très bonnes idées, parce que je pense que tout le monde va dire que Jonathan Clauss, c'est une très bonne idée, mais dans les objectifs au début, de ce qu'étaient les envies de Marseille, c'est de recruter jeunes, de recruter des jeunes à fort potentiel, des joueurs qui après on peut vendre derrière, qu'on peut vendre à des grands clubs, pour montrer que Marseille c'est un club qui fait développer les joueurs et c'est les vendre aux grands clubs, que les grands clubs viennent chercher les joueurs à Marseille. Les deux dernières recrues, la dernière recrue, Klaus, et les deux dernières noms qui devraient arriver à Marseille étaient Lazovic, 31 ans,
toujours pas là, hein.
Qui après il viendra pas, et après on parle d'Alexis Sanchez.
Il y a Nuno Tavares. Exactement.
Donc,
qui a passé la visite médicale aujourd'hui.
Nuno Tavares, c'est la dernière recrue. Bon, au-delà de Tavares, Klaus, c'est Lazovic et Sanchez, je me dis, l'objectif a changé, la façon d'y arriver a changé. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est un peu bricolage parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on voulait, donc on change un peu d'objectif pendant le mercato. Et les départs de Sampaoli et l'arrivée de Tudor, même si ça a été tout le monde au club est confiant pour Tudor, la direction l'a super validé, il n'y a même pas eu de passer deux minutes.
Ça peut être fonctionné. Hein.
Bien sûr, je dis pas le contraire, moi j'ai un gros doute.
Mais c'est vrai que.
Tu mets qui quatrième, toi donc?
Moi, quatrième, je mets Rennes.
Tu mets Rennes et cinquième, du coup, Marseille?
Je mets Marseille parce qu'en tout cas, il y a des joueurs de qualité. Parce qu'en tout cas,
la Ligue des Champions, les gars, aussi, qui peut faire du mal.
Ça peut faire du mal.
Ça va dépendre.
Ça peut finir aussi rapidement.
Ça va dépendre énormément. On parle de Tudor, mais ça va dépendre énormément de Payet et de la saison qu'il a envie de faire.
Exactement.
Ça aussi.
Et de Milik aussi.
Et la même chose pour Gerson, qui sur la préparation est incroyable et qui est au-dessus. Mais Gerson, tu sais pas s'il va rester. Tu sais pas dans quel état d'esprit. Gerson, il va sûrement faire la Coupe du Monde aussi.
Oui,
d'accord. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus préjudiciable pour des équipes comme Marseille que pour des grosses équipes, parce que c'est des mecs qui sont très très importants et sur le banc qui sont irremplaçables. Et ça, c'est une question. Maintenant, moi, pour quatrième ou cinquième place, j'ai mis cinquième place Rennes, mais j'ai énormément hésité entre la quatrième et la cinquième place. Pour moi, c'est très très homogène et Rennes va peut-être faire quatrième et l'OM cinquième, mais pour moi, ces deux équipes-là seront hors podium. Et c'est le principal. C'est que pour moi, le podium, c'est Lyon, Monaco, PSG, Lyon, Monaco.
Fred est avec nous au 32-16. Salut Fred.
Ouais, bonsoir à tous les trois.
Salut Fred. Salut Fred. Bien et toi?
Ouais, impeccable.
Supporter du LOSC, hein, je précise, c'est important.
Oui, c'est vrai. C'est vrai
qu'on n'a pas mentionné LOSC dans le top 5, désolé, mais bon, est-ce que tu es d'accord avec nous déjà?
Oui, bien sûr, oui, c'est vrai que je passe souvent pour échanger avec vous sur le LOSC. Je ne les vois pas dans le top 5. Je pense que ce sera une année, déjà, si on peut voir une qualité de football supérieure à ce qu'on a vu l'année dernière, ce sera déjà pas mal cette année. Mais pour revenir à votre débat, moi je vois bien entendu PSG champion, et sur le top 5 je vois Lyon et Monaco sur le podium. Alors pourquoi Lyon? Parce que je trouve que le recrutement est de qualité, et si la mayonnaise prend, ça peut être vraiment intéressant. Monaco, ce sera solide comme l'année dernière. En quatrième, je mets Rennes, parce que je trouve que sur la lancée de ce qui a été fait l'année dernière en termes de qualité de football et puis de dynamique, ils peuvent être sur le top 5. Et je mettrai Nice également dans le top 5. Je vois pas du tout l'Olympique de Marseille sur le top 5. Donc ça a quelques petites différences par rapport à ce que vous avez pu évoquer tout à l'heure. Mais je vois un beau top 5 avec une homogénéité entre la deuxième place et la cinquième place.
Mais sur Nice, c'est intéressant parce que moi, j'aime beaucoup Lucien Favre. On va pas revenir là-dessus, mais ce qu'il a fait à Nice, c'était extraordinaire sur son premier passage. Attention, on parlait souvent des retours. Tout à l'heure, on parlait avec Messi. Les retours, est-ce que tu as laissé comme image sur ton premier passage, c'est souvent différent, surtout que l'effectif pour moi était quand même un peu plus fourni à l'époque. Et moi, j'ai confiance en Lucien Favre comme Simonet. Mais le problème, c'est que sur l'effectif, j'ai encore quand même pas mal de doutes, moi. Sur les latéraux, au milieu de terrain, il a toujours pas son série. Le mec capable vraiment d'être milieu créateur et de contrôler le jeu. Devant, on va voir comment il va gérer le cas d'Holberg, parce que ça a été un poids l'année dernière avec Christophe Galtier. Voilà, pour toutes ces raisons, en fait, j'ai pas de fraîcheur mercato pour l'instant à Nice qui me permet de les mettre très très haut. Que je les ai mis hors top 5. Et puis Marseille, on va pas être non plus dans le catastrophisme sur Marseille. C'est que Marseille, oui, bien entendu qu'il y a des ondes un petit peu négatives, je peux rejoindre un peu Nico, mais quand même, s'ils font le boulot, c'est quand même une équipe qui a fait deuxième l'année dernière, et je les vois pas dégringoler de la deuxième à la sixième place comme ça en une année non plus.
Oui, mais alors par rapport à ce que tu dis, tu sais, Christophe Galtier, il a toujours eu une réputation de meneur d'hommes, Et bizarrement, ce qui s'est passé l'année dernière à Nice, il y a eu quand même quelques frictions avec également quelques petites fractures au niveau du vestiaire. Et tu vois, si Galtier avait fait 2-3 ans vraiment avec de très fortes qualités humaines qui transpiraient au sein de l'OGC Nice, j'aurais pu abonder dans ton sens. Là, je me dis que le retour de Lucien Favre peut amener vraiment une bouffée d'oxygène aussi par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, parce qu'apparemment c'était un peu tendu, j'y étais pas, hein, mais oui, comme vous. Et je me dis que la dynamique est là, les joueurs sont là, avec cet entraîneur qui revient et qui va peut-être mettre l'église au milieu du village au niveau humain, ça peut donner des choses intéressantes. Après, voilà, je ne sais pas.
Il va falloir se renforcer, parce que si Schmeichel vient, c'est un très gros coup. Il va falloir prendre un ou deux joueurs encore dans cet effectif, mais pourquoi pas? Pourquoi pas Nice?
Vous avez parlé de la charrette un peu ce soir?
Là, pas encore.
Quelle est ta charrette, Fred? Vas-y.
Bah, je vois Clermont en difficulté.
Oui,
parce qu'ils ont perdu quand même leur buteur en 15 buts, et qui est Aline, qui a marqué ce soir du reste. Je vois Clermont en difficulté. Je vois une équipe comme Troyes
aussi. Oui, je l'ai aussi.
Pas très loin. Je vois une équipe comme Brest.
Je l'ai pas. Brest, dans un carillon solide, t'inquiète. Ouais, ça il sait faire.
Okay. Mais là, il y fait confiance à Youssef.
En tout cas, tous les petits promus Toulouse et Auxerre, je vais te dire, bizarrement, entre guillemets, je les vois rester en ligne.
Moi aussi, ils sont pas dans ma charrette.
Avec le public, etc.
Toulouse et Auxerre ne sont pas dans ma charrette. Moi, j'ai mis Troyes, Clermont, Ajaccio. C'est très compliqué quand même, je pense, Ajaccio.
T'as raison.
Et Angers, attention Angers, hein. Perdu beaucoup de monde Angers.
Ouais, Angers, c'est attention d'Angers.
Attention congélo aussi quand même.
Angers.
Moi, ma charrette.
Angers en danger, les gars.
Tu veux ma charrette, Nico?
Vas-y, ta charrette.
Alors Angers, je suis d'accord avec toi. Parce
c'est une belle charrette.
C'est une belle charrette. Mais ils ont perdu Mohamed Ali Chou qui est parti à la Real Sociedad. Ils ont perdu Fulgini. Ils ont perdu Mangani.
Cabot.
Ils ont perdu Cabot.
Romain Thomas. Collier, Vincent Manceau.
C'est beaucoup.
Les Boss.
C'est beaucoup. Et je pense que déjà l'année dernière, ils avaient fait un très bon premier mois, mais derrière, ils étaient à deux doigts déjà d'être en grande difficulté. Donc pour moi, Angers, attention dans une année où ça descend, où il y a quatre descentes. Clairement, je suis d'accord, vous avez parlé de Bayo, mais il y a Zedatka qui est parti à Lille, il y a Nsimba qui est parti à Lens, qui était très. Nsimba qui est parti à Bordeaux, et il y a Abdoul Samed qui est parti à Lens, qui étaient des joueurs très importants. Je crois même qu'ils ont perdu Outonji aussi.
Oui, ils ont perdu.
Donc ils ont perdu beaucoup de joueurs. Derrière, j'ai mis.
Angers qui récupère Adrien Henoux.
J'ai mis au CERF à mon grand. Malheureusement, même si j'aimerais bien qu'il se sauve, parce que je pense que ça va être un peu léger en termes d'effectifs. Jean-Marc, notre ami Jean-Marc, fait souvent la
première. Non, tu lui as pas dit ça l'autre jour.
T'as pas dû lui dire.
Tu l'as mis là, en face de toi.
Je suis impatient de vous voir. On va se régaler, Jean-Marc Furlan.
On va regarder les matchs. On va regarder les matchs, mais.
Derrière les dos et les pieds, là.
J'espère. Le
couteau dans le dos.
Le cœur voudrait que Auxerre se maintienne.
Mais tu es inquiet pour Jean-Marc.
Mais je suis inquiet. Et la quatrième équipe, c'est Ajaccio, bien entendu, qui pour moi.
Bien entendu.
Bah, qui pour moi.
C'est méchant, hein.
Non, mais
c'est dur,
c'est dur. Pas
nécessaire.
Non, mais pour moi, c'est en dessous.
Les gars, il est pas à l'aise, regarde. Fred, tu voulais rajouter quelque chose?
Pantalonnier, on l'a vu que c'était
sévère. Oui, on va bétonner, hein, sévère.
Ouais, je voulais vous demander en 20 secondes, Lille, vous les voyez avec votre regard de journaliste.
Huitième. Non, t'en mets pas la question. Huitième, Fred. Huitième de Ligue 1, je pense, Lille.
Ouais, pas mieux que cette année.
8-9. Non, moi non. Ah, c'est compliqué.
Il y a quand même une grosse concurrence cette année.
Il y a un bon coach.
Soit c'est la grande
surprise.
Ça va dépendre
de ton avis également, déjà s'il reste. Hein, ouais.
Soit c'est la grande surprise, la vois moi aussi un peu.
8.
Moi, en fait, j'ai énormément de mal à situer Lille. Déjà, le recrutement, je le trouve en fait. Je sais pas quoi en penser. Cabella, Jonas Martin, Bayo, on va voir Ali, Zedatka, ce sont des bons joueurs.
Ça devient une bonne équipe des Ligue 1.
Pour s'intégrer dans le top 8, quand même, il y a quand même
Lille,
des équipes.
Lille, ventre mou, mais ventre mou de Walid, qui est perdu de 3 kilos, quoi.
Oui, c'est exactement ça.
C'est ça.
C'est 7 pour être précis.
Ce serait la saison ventre mou Walid.
Exactement. Mais ça, elle est bonne, ça, elle est très très bonne, Nico. Mais parce qu'en fait, je pense que Paulo Fonseca, on aura les fruits du travail de Paulo Fonseca sur la deuxième année, peut-être, je pense.
Effectivement. Bon. Merci Fred.
Oh, merci de m'avoir appelé.
D'avoir joué avec nous.
Merci Fred. Merci.
Bonne soirée à toi. À très vite dans l'after, les gars. Alors, vas-y.
Angers. Ajaccio. Troyes. Et Lorient.
Lorient. Ah, Le Bris. Bon boulot, on va voir.
Le Bris, on va voir. Le Bris. Apparemment, Thibault Lepal nous a dit que c'était très bien.
Régis Le Bric a un nom, en fait, c'est d'international anglais aux origines françaises, je trouve.
Hein?
Il a un nom d'international anglais aux origines françaises, Le Bric.
Oh, un peu un Étienne Green, quoi.
Non, rien à voir.
Non, je...
Non. C'est le contraire.
Graham Le Saut, tu vois. Tu viendrais comme ça.
Ouais. Pas compris.
Ouais. Ah, Le Bric, Le Saut, ok.
Les gars, équipe Frisson Ligue 1.
Lens chez moi.
Frisson, ça sera.
Fait un match à Bollard cette saison.
Tu vas aller à Bollard.
Ah, cette saison, je vais à Bollard.
Et tu vas te régaler à chaque fois que tu
Je vais me régaler.
Bon, pourquoi pas? Oui, non, moi je pense aussi.
J'ai regardé Lens Inter et déjà en amical, j'ai eu des frissons déjà.
D'accord. Non, c'est belle. Et alors, moi j'aurais dû dire Nice si je voulais être un peu plus maison, mais j'ai dit Rennes.
Ah, Rennes. Moi aussi. Rennes, je suis convaincu qu'on va se régaler.
Parce que ça va
encore
être...
plus lâcher les choses.
La continuité. La saison de Genesio sur le frisson.
Ouais, mais attention. La continuité, les joueurs de qualité. Et en plus, frisson, parce que comme ils ont perdu à Guerre, ils vont prendre beaucoup plus de buts. Il n'y aura pas des 6-0, mais peut-être avoir des 6-3, des 7-2. Je pense que ça va être une équipe qui va nous faire vivre des beaux matchs. Je ne dis pas que c'est celle seulement qui va gagner tout, etc. Il y aura beaucoup plus de buts encaissés pour moi, parce que s'habituer à cette nouvelle charnière, et j'ai quelques doutes sur le théâtre, mais j'espère de me tromper, mais on verra. Mais je pense qu'il y aura des beaux matchs à regarder avec Rennes.
Je pense aussi. Équipe congélo, les gars. Équipe congélateur, là, vois. Ton congélateur, il y a plein de glace, tu l'as jamais délivré.
Ouais. C'est compliqué. Mon équipe congélo, yaourt nature, c'est Reims.
Non.
Si, pour moi, Reims, en fait, c'est une
équipe. T'as pas envie de regarder.
Non, elle me fait pas grand chose, cette équipe.
Mais viens de prendre Ito.
Elle est pas méchante, cette équipe. Elle est cohérente. Ouais, mais vraiment, c'est dimanche 15h sur le multiplex.
Non, ça va pas.
Tu vois, Karim Benani qui dit à but, mais voilà, j'ai
pour. 15h10, 15h12, tu baves un petit peu dans le canapé.
Exactement, mais c'est pas vraiment, c'est mon équipe yaourt nature. C'est 12e, 13e du classement.
0% ou pas, ou quand même?
Non, c'est le Activia. Activia Nature.
D'accord.
Ah, ouais. Attends, c'est lui qui t'a fait, non?
Le Bifidus Actif. Ah.
Non, c'est méchant, ça. Non, je vais défendre Reims. Il y a des joueurs intéressants.
Non, mais bien sûr.
Parce que Cajuste qui est arrivé en janvier, il a eu le temps de s'adapter.
Oui, non, mais Ito
qui est arrivé.
Zenelli, tout ça.
Je pense que c'est bien.
En plus, ils ont perdu Kitike qui était un peu le joueur frisson de
cette équipe.
C'est mon GC.
Bon, Simonet, ton équipe congélateur.
C'est Lorient.
Lorient, congélo.
Non,
tout est descendre, il se passe rien, c'est très, très dur.
Je suis désolé, mais charrette et congélo, c'est trop dur pour Lorient quand même.
Bon, moi, les trois ans de la charrette, ils pourront, tu vois, ils ont des coups de chaud, ils pourront se rafraîchir.
Non, je suis désolé. Peut-être. En plus,
un petit hors nature dans la charrette.
Ouais. J'ai l'impression que ça va être une année très difficile pour eux.
Il y a des principes de jeu, hein,
je pas.
Après, par contre, Reims, c'est vraiment pas yaourt nature sur les réseaux.
Très bonne communication.
Très fort.
Regardez la dernière annonce de la présentation de Ito.
Ah, mais c'est vraiment
très ingénieux, très créatif.
Mais sur le terrain, c'est un peu hors nature.
Bon,
l'entraîneur, c'est pas mal.
Bon, ouais, bon, bref.
Vas-y,
dis-le de qui. Non, je vais changer.
Allez, dis, Nico, assume.
Non, non, bah, moi, je veux dire Angers, je pense, ouais.
Non, c'était pas celui-là.
C'est lui-là.
Non, il n'y a pas.
Oh, les menteurs.
Regarde, il n'y a pas, tu vois, regarde, il n'y a pas. Tu reconnais, il n'y a pas. Bon.
C'est pas beau, Nico. C'est pas beau.
Bon, je crains qu'Ajaccio m'ennuie un petit peu quand même.
Ah, d'accord, ok.
j'ai très peur pour Ajaccio.
Ah, tu l'as dit.
Pas sûr de mater. Quand je vais mater un match,
je vais mater tous les matchs.
Et puis après, je vais dire, bon, ben non.
Après,
on verra. Hein, mais moi, je me demande qu'elle tient compte par le.
Moi aussi, peut-être que Reims serait
sympathique. On va voir.
T'imagines, c'est l'équipe congélateur de la Ligue 1, c'est Paris à la fin.
Non.
Elle est possible aussi, d'ailleurs.
Tu as raison. Rapidement, les gars. 20 secondes, meilleur buteur.
Mbappé.
Révélation.
Désiré Doué de Rennes.
D'accord.
Au milieu de terrain. 17 ans. Très bon prospect. Il fait une très grosse prépa.
Van den Boom, les gars, on n'en a pas vu. Donc,
Van den Boomen. Moi, j'ai
mis. Ça va être une révélation aussi pour Simone et
Révélation, c'est l'orthographe de Van den Boomen. Moi, j'ai mis Vitinha, même si on va dire. C'est pas une révélation, on le connaît.
C'est pas une révélation,
mais
on connaît.
Tu vas voir. Meilleur gardien.
Meilleur gardien, Donnarumma.
Moi, j'espère qu'il soit Boulka et qu'il reste à Nice.
D'accord.
Et qu'il puisse jouer.
Bon, Anthony Lopez, voilà.
Ouais.
Voilà, les gars, c'est terminé pour moi. Et pour vous également, rendez-vous demain pour l'after qui débutera à 21h après la journée de Ligue 1 en multiplex. C'est retour du foot.
Ligue 2.
De Ligue 2, pardon, retour du foot. Sur RMC en direct. Bonne soirée à tous. Bye bye.
Ciao.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.